professors and structural feminists and punk rock performance poets who smoke cigarettes and wore leather jackets. At night in the dorms, we discuss neocolonialism, France Fanon, Eurocentrism, and patriarchy. Professors and structural feminists and punk rock performance poets who smoked cigarettes and wore leather jackets. At night in the dorms, we discussed neocolonialism, France Fanon, Eurocentrism, and patriarchy. When we ground out our cigarettes in the hallway carpet, or set our stereos so loud that the walls began to shake.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 10 novembre 2012, nos programmes pour cet après-midi à 13h30, bof, je sais pas, on verra. Du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jeanne O'Dead et à 17h FMR, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le docu sur nos amis des bêtes que vous attendez tous.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous, c'est le supplément week-end numéro, on ne sait pas, on n'a plus les comptes en tête. Bonjour du sport.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous sommes sans Xavier, puisque Xavier est parti en escapade à Paris, mais nous avons deux invités pour le remplacer. Nous avons Franck Lubé. Bonjour Franck.
Attends.
Bonjour.
Voilà, Franck Lubé, nous attendons professeur Thibault qui nous parleront du festival Extrême Cinéma qui commence mardi prochain, je crois, c'est ça?
Exactement, à la Cinémathèque de Toulouse.
Voilà, donc nous allons parler festival de films étranges et bizarres et barrés. En attendant, il y aura une rubrique bande dessinée, du sport terminera comme d'habitude avec quelques films dégotés spécialement pour l'occasion puisque ce sera des films avec des bêtes.
Ah ouais.
Ah. Nous avons quelques joyeusetés aussi. On aura quelques coupures musicales bien trouvées par rapport à la thématique. Mais en attendant, on va peut-être commencer avec les sorties BD, à moins que tu veuilles.
Ouais, vas-y, allez, attaque.
On attaque avec les sorties BD, on va commencer par Doggy Bags. Donc c'est un omnibus, tome 3, c'est le tome 3 d'une série de 3 histoires qui sont principalement consacrées à la culture, on va dire, nord-américaine. Et cette fois-ci, c'est un numéro spécial Ciudad Juárez au Mexique. Donc c'est le territoire, évidemment, des mafias, des trafiquants de drogue. On a quelques pages d'historique sur la lutte du gouvernement de Calderón contre les trafiquants, les enlèvements, etc. Mais évidemment, l'essentiel de cette série de bandes dessinées initiées par Run sur le label 619 d'Ankama, c'est évidemment de rendre hommage au vieux pulp, au pulp d'horreur, aux comic books américains des années 50, 60, même 70. Bon, le principe reprend les greenhouse et les doubles programmes que avaient mis au goût du jour Tarantino et Rodriguez. Donc Doggy Bag cette fois-ci, donc c'est toujours 3 segments qui sont concoctés par le Run NAF. Donc ça, c'est le premier, un caïd local qui commence à déconner un peu dans sa tête puisqu'il y a une malédiction sud-américaine qui est lancée contre lui après qu'il ait buté sauvagement quelques caïds adverses. On a le segment du milieu, c'est plus une histoire sexy. Alors, qui c'est qui veut feuilleter? Je sais pas si
Franck... Oui, vas-y, donne-moi.
Donc le segment du milieu, c'est Florent Modou, le papa de la série Freak Squeal, qui est orchestré sur une scène de lap dance, de danse très lascive, très érotique, très sexy, dans la lignée d'Une Nuit en Enfer. Alors là, on s'en prend plein les mirettes au niveau du découpage, au niveau du dessin, au niveau des cadrages, au niveau de la mise en scène de la danse. C'est vraiment ultra jouissif. Voilà. Le troisième segment concocté par les petits nouveaux, donc ça s'appelle Dia de Muertos, par Francesco Giugiaro et dessiné par Jeremy Gasparuto. Donc c'est une, ça met en scène un raid meurtrier d'hommes masqués à l'assaut d'un cartel super puissant. Voilà. Donc un excellent ouvrage comme d'habitude, sauf que cette fois-ci il y a des pages déjà culturelles très ancrées dans le monde politique d'aujourd'hui pour expliquer vraiment ce qu'est Ciudad Juárez et tout, et à la fin il y a même deux pages pour raconter l'histoire de Florence Cassé. Donc voilà, on est à mi-chemin entre la blague et quand même le sérieux, parce que ça prend pour toile de fond quand même des histoires super sérieuses, et que c'est voilà un numéro plus ancré dans le monde réel que les deux précédents, mais c'est toujours jubilatoire, c'est toujours aussi bien fichu. On voit que ce sont des auteurs de BD qui aiment bien qui rendent hommage avec intelligence et aussi avec une maestria graphique, et également on voit qu'ils s'éclatent tout simplement, et c'est ça qui fait plaisir. On a un gros poster à la fin, voilà, comme Franck
bah, comme d'habitude
de,
hein.
Voilà. On a un poster consacré à la première histoire, voilà. Dans la veine des comics.
Je préférais le précédent. C'est le numéro 2, je crois que c'est celui où il y avait le mec avec toutes les bonnes femmes.
Oui, hein, avec les bonnes femmes qui étaient des pseudo-aliens colonisés. Ouais.
Tout à fait.
Voilà, donc on rappelle la référence Doggy Bags, tome 3, c'est donc un collectif, hein, Florent Modou, Run, Neyef, Gasparuto et Giugiaro, c'est dans le label 619 d'Ankama, c'est à conseiller dans toutes les bonnes crèmeries, c'est vraiment super, et si vous aimez ces BD qui rendent hommage vraiment à la, on va dire entre guillemets à la Tarantino, mais bon, c'est vraiment des raccourcis, procurez-vous les deux premiers, c'est vraiment une très très bonne série. Ils en sortent à peu près deux numéros par an. Sur les deux précédents numéros, ils avaient fait des trailers avec en prise de vue réelle. Ils s'étaient vraiment embêtés à faire un scénario. Ils avaient reconstitué une histoire, une des histoires qui était contenue dans le recueil avec des vrais acteurs, et c'était des auteurs maison d'Ankama qui jouaient les rôles, justement, avec plein d'hémoglobine, c'était des explosions gore et tout. Vous tapez trailer Doggy Bags sur internet, vous verrez, vous atterrirez dessus. Voilà. La série Doggy Bags a conseillé.
Radio Éphémère, toujours 89.1 MHz. Le supplément week-end, on fait une petite pause. Alors, c'est surtout parce qu'il y avait des retardataires et puis que bon, le temps de se mettre en place. Vaut mieux éteindre les micros. C'est plus poli, il y a moins de bruit suspect.
Allez, on passe à la suite en niveau bande dessinée, puisque si vous voulez intervenir d'ailleurs, ne vous privez pas. Bon, on va dire bonjour à Franck quand même, à Professeur Thibault. Frédéric, bonjour.
Bonjour professeur.
Attends, avec le micro ouvert c'est mieux.
Ah oui voilà, donc ah oui c'est bien.
Toujours qu'une seule oreille.
Ah bah c'est de la mono.
Ça va mieux. Ça va, tu as piqué un sprint?
Ah oui, j'ai piqué un sprint, oui. Oui.
Le long du canal, t'as fait comme ton Vendée Globe à toi?
Tout à fait, c'était un peu mon Vendée, un peu trop d'ailleurs. C'était une distance qui était trop importante pour moi, enfin ce matin du moins.
On vous connaît pour vous occuper d'un festival de cinéma. Est-ce que vous êtes ouvert à d'autres cultures graphiques, puisqu'on est dans la page BD pour l'instant? Est-ce que vous êtes open à lire des BD, à regarder des séries télé?
Oh bien sûr, oui. Bien sûr. Quand même, on regarde pas que des films, ce serait triste. Voilà. Non. Bah bien sûr. Non. Moi je suis resté un peu Keblo, années 80-90. Voilà. Avec Frank Miller, voilà, Alan Moore, etc., etc. Donc je suis pas trop ce qui se fait actuellement, mais à la fois, deux fois, ça m'arrive de, voilà, sur de bons conseils, voilà, de pouvoir lire des choses.
Qui sort de l'ordinaire, qui sort des années 80.
Allez, tant qu'on parle des vieilles séries BD, je pense que ça évoque quelque chose à quelqu'un.
Ah oui, ah, le Spirit, oui. Formidable.
Voilà, donc le Spirit de Will Eisner, donc remis au goût du jour. sous la plume du scénariste Brian Azzarello qui avait avait fait le First Wave en tome 2, qui n'était pas vraiment très convaincant, mais il fallait souligner un peu la tentative quand même. C'était une série en deux tomes où il convoquait justement pas moins que trois personnages emblématiques des vieux pulp comics qui étaient Doc Savage, Batman et The Spirit dans la même histoire. The Spirit avait un rôle un peu plus en retrait que les deux premiers. Le dosage entre vieux comics avec des aventures qui étaient liées aux comics d'antan, c'est-à-dire des situations assez improbables, ils mélangeaient des ninjas, des cités sous l'eau avec des gros globes de verre et tout, c'était un peu bizarre. Cette fois-ci, The Spirit, il retourne à Central City. Il est vaguement en question d'Octopus. Il y a deux histoires. La première, plutôt sexy, plutôt pleine de charme, où on voit que The Spirit est toujours accro aux belles pépettes. Donc c'est l'association de crime qui envoie un tueur pour s'occuper du Spirit et épauler justement le baron local Octopus pour se débarrasser du Spirit. Il se trouve que c'est une femme de rêve, une femme fatale qui arrive. Fatale. Voilà. Ce qui devait arriver arriva. Ah, on sait pas trop, on va pas vous spoiler.
Il a retourné, tu veux dire?
Peut-être, peut-être pas. En tout cas, on voit que le Spirit a plein d'états d'âme, on voit est-ce qu'il hésite à frapper les femmes ou pas, vous verrez si vous lisez la BD, s'il y a de la baston, s'il y a pas de baston. C'est une histoire qui est assez classieuse, qui tranche beaucoup avec la deuxième histoire, le deuxième arc. Alors là, par contre, sur quatre chapitres, ça parle de drogue, ça parle d'une drogue qui est très, très mortelle. C'est Central City sous la neige. Les lacs sont gelés, puisque ça rappelle d'ailleurs le dernier Batman Dark Knight Rises, hein, avec ce lac gelé. Alors là, par contre, on n'est plus du tout dans la rigolade, on n'est plus du tout dans les belles pépettes. Franchement, là, c'est les meilleurs amis du Spirit qui sont drogués à leur corps défendant par les barons de la drogue. C'est beaucoup plus gore, beaucoup plus violent, bien prenant aussi. On voit que The Spirit a deux facettes aussi. Il peut faire je suis ma femme, mais aussi on est vraiment dans le roman noir pur et dur. Les deux sont des réussites, les deux mettent en valeur l'autre. Franchement, The Spirit, je crois que c'est une série en trois tomes justement, remis au goût du jour. Donc ça, cette fois-ci, c'est plus Azzarello qui s'en occupe. C'est Hein Schulz et Moritat au dessin, le dessin vraiment ultra efficace. Il y a un trait qui est super épais, ça permet de justement mettre l'accent aussi sur cette ambiance de corruption qui règne sur Central City. Et puis on a des couvertures qui sont vraiment superbes, qui sont juste avant chaque chapitre et qui illustrent justement ce qui va se passer après. Cette ville sous la neige est magnifique, sur des pleines pages, franchement, moi, j'ai été vraiment emballé par ce tome-là. Donc, premier tome d'une série en trois tomes. Donc, évidemment, inspiré du personnage imaginé par Will Eisner. J'ai une note. En 1940. Si vous aimez les vieux pulp comics, ça a conseillé. Au contraire de l'autre série dérivée de First Wave, Doc Savage. Alors là, par contre, moi, j'ai pas du tout accroché. L'homme de bronze, le gars qui a aucune faille, il est mis en difficulté par un baron qu'on croirait sorti des pires méchants de James Bond. Des situations improbables, un ascenseur qui se fracasse, mais lui avec une seule main, parce que lui c'est l'homme de bronze, il est super costaud, donc il va délivrer deux gamins qui avaient pas eu forcément le temps de s'échapper de l'incendie de ce putain d'immeuble. Voilà, tu passes les 10 premières planches, tu te dis c'est une parodie, c'est bon d'accord, attends, je me remets dans la situation des vieux comics, mais quand même, à la fin tu dis ouais, bon, voilà, c'est peut-être à conseiller aux aficionados.
C'est un peu le propre de Doc Savage, non? Il me semble. Oui. C'est quand même le héros positif dans toute sa splendeur et dans toute sa naïveté, hein, si je me rappelle bien.
Tout à fait.
Qui sauve toujours la veuve et l'orpheline et qui est dans des situations improbables. C'est celui qui gagne toujours à la fin, quoi.
Enfin, ouais, en étant totalement désintéressé. En plus, c'est ça qui est génial. Quoi.
Des femmes, oui.
Ouais.
Oui, et puis toute considération financière et tout. C'est quand même le gars, voilà.
Ah oui, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien, quoi. il est parfait, quoi. Doc Savage président. Enfin, Coco, on se fait bien chier.
Il y a même eu un film.
Oui, il y a eu une adaptation de Doc Savage, oui. Complètement incroyable.
Le film, il est complètement porte-nawak parce qu'en plus, il se trouve que le doublage en français fait que Doc Savage zozote.
Tout à fait. Exactement.
Il parle
donc.
Très bien. Oui, fait très bien Doc Savage.
Professeur Thibault et Doc Savage.
Oui.
Dans les premières répliques, on se dit bon bah le mec il a voulu déconner et puis bon c'est bon. Mais au bout du film, on se dit bah ouais non mais quand même c'est comme ça. Ouais. Tout le film, le mec, le héros zozote.
Et c'est vrai que comme ça se prend très au sérieux, du coup, ça crée un décalage ouais, assez hallucinant.
Prochainement, ou déjà programmé dans le Festival Espagne Cinéma, peut-être ?
Non, on l'a jamais programmé.
Je sais même pas si ça se trouve, donc ça va être un copier.
Oh, ça doit pouvoir se trouver.
Ça doit être un peu.
Deux choses comme ça, dans les archives, peut-être de Feu La 5, par exemple.
Oui. Voilà, oui, avec Docteur Justice, ça fait partie des deux films de super-héros, entre guillemets, on va dire, par-delà le bien et le mal.
Ouais, par-delà le bien et le mal, ouais, c'est bien ça.
Est-ce que c'est une thématique qui pourrait arriver dans un festival, une édition hypothétique dans le futur, ça, des super-héros ou,
Oui, bien sûr. Peut-être qu'on le traiterait peut-être de cette manière, justement, en essayant de montrer un éventail de tout ce qui s'est fait.
Elle est diabolique et tout ça, quoi,
Enfin, du plus sérieux ou plus minable, voilà, entre guillemets.
Ouais.
Mais ça pourrait se faire, bien sûr, pourquoi pas. Oui, c'est une bonne idée, tiens, d'ailleurs.
Et demandez-nous si vous manquez de sujet.
Comme ça, on aurait plein d'intervenants, voilà. On pourrait se reposer, on n'aurait plus à parler, ce serait super.
Non, mais ceci, ce serait pas mal de faire, effectivement, quelque chose sur les super-héros, mais on va dire des films d'antan. Pas les super-héros remis au goût du jour depuis une bonne décennie.
Et de remettre au goût du jour, c'est cette fameuse expression que tu as l'habitude de prononcer, c'est raté magnifique.
Ah oui, formidable, j'adore. Oui, voilà. Ben là, il y en aurait plein pour le coup.
Ah oui, carrément.
Ouais. C'est vrai. Eh ben, je vais carrément rebondir sur ce que vous venez de dire à propos des super-héros et à propos des versions originales et tout, parce que dans Superior, le deuxième tome, alors là, je suis un petit peu à la ramasse parce que c'est sorti en septembre déjà. Ouais, mais bon, tant pis. Mais c'est donc le tome 2 de cette série que je vous avais présenté, l'histoire d'un jeune garçon, Simon Pouny, qui a tout pour réussir. Il est super bon en basket dans son collège, il est pas mal, il étudie bien et tout, jusqu'à que la grosse tuile sclérose en plaque, donc il lui reste quelques mois à vivre. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout à coup, l'apparition d'un singe venu de l'espace. Tu vois le rapport avec un singe en tenue de cosmonaute, c'est pas des conneries, c'est vrai. Lui dit, écoute, si tu veux, je te fais faire un vœu magique, un seul vœu, et puis vas-y quoi. Et bon, comme le gamin, il restait sous le charme de Superior, le héros de cinéma tiré de bande dessinée, mais qui date un petit peu quand même, tu vois, la boucle est bouclée à ce niveau-là, et donc il décide d'être Superior. Et dans le premier tome, on arrive à la fin du premier tome avec un petit garçon qui a conquis son nouveau costume de Superior, avec des ratés au début et tout, quoi, c'est ça qui est rigolo un petit peu. Après, il décide de faire le bien, il décide de faire ce qu'il a toujours eu envie de faire, on va dire, pour même des petits trucs anodins, genre un jour il m'a poussé, je le repousse, et puis voilà, voilà, des trucs tout simples. Sauf qu'à la fin du premier tome, on revoit ce fameux singe cosmonaute qui s'appelle Ormond, et là, il s'avère que Ormond n'est pas gentil du tout quand il donne des vœux comme ça. Et au bout du on se dit qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer dans ce second tome. Alors sans rien dévoiler, je peux dire que beaucoup de mythes sont revisités. Alors Mark Millar fait très fort, on le sait, pour retourner et puis pour mettre dans des situations un petit peu en abîme, des mises en abîme, des situations un petit peu paradoxales, des vieux héros de notre enfance qui sont remis au goût du jour, mais encore incarnés par d'autres personnages plus réels. Et là, on se dit, c'est pas trop mal. Le petit défaut, peut-être c'est... Ouais, je peux spoiler un peu. Ça se termine bien. Et puis on se dit, comme un petit goût d'inachevé, comme on aurait aimé qu'il se passe autre chose. Mais non, mais on est quand même vachement conquis. Donc Mark Millar et Lane Liu, c'est donc le deuxième tome de Superior, l'âme du héros. Vous allez voir que, il y a quand même des petits trucs qui sont très très intéressants. Et en tout cas, c'est très bien mis au goût du jour. J'en dirai pas plus. Je te laisse, Thomas, tu vas voir, c'est quand même pas mal. C'est sorti en septembre.
Mais ça ne pouvait que bien se terminer, puisque c'est un hommage aux super-héros, mais avant la vague badass, quoi. C'était pas la... Avant Wolverine, c'était vraiment Superman, le gars qui était lumineux, qui était sans peur et sans reproche. Et d'ailleurs, il y a des dialogues dedans, puisque tu l'avais souligné à l'occasion de la chronique du tome 1, où c'est vraiment ancré dans notre époque à nous. Donc ces deux jeunes, le héros et son pote, ils vont au cinéma, et puis il dit « Ouais, moi j'ai bien aimé Superior et tout. » L'autre, il dit « Bah non, on aurait pu se faire le dernier Statham. » voilà. Donc, alors que le héros, c'est vraiment le pur et dur fan du héros qui est un peu à la ramasse. On voit que l'acteur, justement, il a 50 balais maintenant, et puis un peu, bon, les producteurs, ils lui disent, bon, bah, t'es gentil, mais bon, voilà.
Alors, oui, en plus, si tu regardes à la fin, tout à la fin du deuxième tome, tu peux regarder tout, quoi. Il y a une dédicace spéciale à le prénom, je me rappelle pas, l'acteur qui a créé Christopher Reeves et Richard Donner, donc, qui a réalisé le premier Superman au cinéma.
Ah donc, oui, tout ouais, à fait. Ouais,
donc, bon, la boucle est bouclée, quoi, on d'accord. va dire, avec cette dédicace à la fin, quoi. Bon, bah, on a tout compris. Mark Millar, il a encore réussi son coup à ce niveau-là, quoi. Pas qu'à ce niveau-là, mais enfin, bon, c'est ça qui est rentré très intéressant chez lui. Mark Millar, il y en a encore.
Ah, quel enchaînement.
Mais après la musique.
Crawling up my wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread.
Power is the spider. Power is the spider.
Dropped onto the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see.
Where is the spider? Where is the spider? Trapped in the ball, doesn't seem to move at all. Perhaps he's dead, I'll just be sure. Pick this book up off the floor. God is the spider. God is the spider.
Sticky end. Don't think he will ever mend. Nevermore will he crawl round. He's embedded in the ground.
Where is the spider? Where is the spider?
Radio FMR 89.1 MHz, toujours le supplément week-end.
On va quand même annoncer, il faut quand même débuter ça puisqu'on aurait dû le faire tout à l'heure. Vous, amis auditeurs, vous savez que vous pouvez gagner des places pour le festival Extrême Cinéma qui se déroulera à partir de mardi prochain jusqu'à samedi. Pour cela, vous nous appelez au 05 61 580 580 en direct. Nous vous recevons et puis comme ça, vous pourrez gagner quelques places pour... Il y a des places à gagner pour la cérémonie sur le ciné-concert d'ouverture, la soirée clôture et également des places pour une séance au choix. Donc n'hésitez pas à appeler au 05 61 580 580. Promis, on ne sera pas vache, on vous fera pas de quiz, on fera pas de questions piégées. Il suffit d'appeler, vous gagnez la place.
On ne sera pas vache. Non.
Ah là 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 là.
Bien joué, bien joué. À noter que le morceau justement, c'est un morceau néo qui s'appelle Boris the Spider, donc Boris l'araignée. On continue dans la catégorie bande dessinée, mais là on a décidé de faire un petit peu plus hard-boiled, on va dire.
Voilà, ouais. Là on est dans la on a deux BD encore. On commence par la plus soft et encore. Alors au niveau graphique, c'est peut-être pas la plus soft, mais au niveau de l'histoire certainement. Ça s'appelle Butcher Baker. C'est Joe Kazé et Mike Huddleston, voilà, excusez mon anglais, mon accent. Ça s'appelle Le Redresseur de Thor, donc c'est un one-shot édité toujours dans le label 619 d'Ankama. Et alors je retrouve ma fiche puisque, voilà, j'avais préparé le truc. Voilà donc, Butcher Baker, alias le redresseur de Thor, mène une vie de débauche, retirée des affaires, loin de l'époque où les dommages collatéraux se retrouvaient sur de simples notes de frais écrites avec le sang des criminels. Ancien super justicier, il est mandaté par deux envoyés du nouveau gouvernement, désirant nettoyer ses placards. Alors évidemment, ces deux envoyés du gouvernement ne sont ni plus ni moins que Dick Cheney et Jay Leno.
Ah bah oui.
Voilà. Ravi de se replonger dans une orgie d'adrénaline, de sexe et de violence, tel James Bond dans Jamais Plus Jamais, Baker reprend le volant de son camion aux couleurs de la bannière étoilée et accepte d'aller dynamiter un asile abritant les pires vilains. Mais dans l'histoire, il oublie de nettoyer à 100%.
Ouais.
Et voilà, et ça va le poursuivre après. Et s'ensuit donc une traque sans merci virant en dégommage généralisé où seront conviés dans un joyeux bazar qui gicle une femme fatale électrique, un flic tatillon et ventripotent, une entité manipulatrice en quête de sa mémoire et dont le nom est un adverbe, ou encore un tueur sadique fou parti venger la mort de son amant de sidekick. Voilà, on voit qu'on est quand même dans le comics un peu débridé. Donc le héros, donc c'est un croisement. Alors pour le camion entre Jack Burton, mais bon, c'est juste pour le camion. Et moi, je trouve que c'est un lointain cousin du comédien de Watchmen.
Ouais, je pense
que
la même chose. Justement, la couverture, c'est hallucinant, c'est lui quoi, c'est le comédien.
Il a la moustache, le
fait que tu racontes quoi, le mercenaire qui est rappelé par des faucons pour une autre aventure. Enfin, c'est le comédien. Ça peut être une aventure.
Ah oui,
du comédien tueur.
Un spin-off, ouais.
Ouais, un spin-off, exactement.
Exactement, ouais. Alors, le mec, c'est un obsédé sexuel, donc, dès les premières pages, on voit qu'il est dans un harem. D'ailleurs, pour le convaincre, il y a les deux faucons qui sont envoyés, qui lui donnent trois nanas superbes, qui sont nues sous les impairs, donc lui, il commence à s'amuser pendant qu'il parle aux deux envoyés. Voilà, c'est complètement débridé, c'est pas une BD à lire pendant qu'on fait autre chose, hein. Il y a une multiplication de points de vue, de voix off, il y a des codes couleurs pour qu'on s'y perde pas. On passe d'un narrateur à un autre, puisque prend de plus en plus d'importance le flic shérif tatillon qui est, on dirait qu'il est issu de l'Amérique profonde, un peu loser, mais finalement on voit qu'il a quand même son importance dans la série, dans l'histoire. Les personnages, donc ils ont tous des super pouvoirs, donc c'est chaque super pouvoir donne lieu à des quelques séquences assez comiques. Ça va dans tous les styles graphiques, des hommages avec des trames aux vieux comics, on a des univers beaucoup plus en dégradé, beaucoup plus clean et beaucoup plus froid, on a du noir et blanc, on a de multiplication, un surdécoupage avec 20 images par planche, d'autres on a des planches avec une seule image, voilà, c'est débridé, c'est expérimental, ça rappelle vraiment le travail de quelqu'un comme Bill Sienkiewicz sur Elektra. Il y a du gore, il y a vraiment ça vient vraiment dans l'explosion d'hémoglobine vers la fin. Donc voilà, si vous aimez les comics hardboiled avec voilà des personnages qui on leur dit de buter quelqu'un, ben ils vont pas se faire prier. S'il y a des dommages collatéraux, ils en ont rien à foutre. S'il y a des nanas sur le chemin, ben ils vont se faire plaisir aussi. Bon voilà, c'est ce genre de comic books en tout cas. Je ne sais plus le prix, donc il est pas marqué, c'est un code sur la couverture, mais en tout cas voilà, c'est un bel objet. À la fin il y a même des illustrations originelles par les auteurs maison de l'éditeur. Il y a même d'ailleurs une image du dessinateur, je crois, de Tang Girl, si je me souviens bien. Voilà, on a un sketchbook aussi avec les recherches graphiques du dessinateur. Voilà, c'est assez complet, c'est un bel objet. Et puis en plus, c'est un one-shot, vous n'aurez pas donc à acheter les suivants. Voilà, Butcher Baker, scénario de Joe Casey, dessin de Michael Leston, chez Ankama, dans le label 619. Voilà. Toi, du sport, tu l'avais lu aussi?
Bah oui, je l'ai acheté. Et ouais. Vraiment, j'étais étonnamment surpris parce que bon, c'est vrai que les deux premiers chapitres, on s'attend peut-être à un truc qui va être très linéaire, c'est-à-dire que bon, ok, quoi, effectivement arrive ce qui se passe quand justement il fait péter la prison, puis bah ok, il y a des dommages collatéraux, et on se dit ok, bah ça va être plus ou moins une espèce de road movie, il va retrouver les mecs, c'est ce qui se passe, hein. Chaque fois il retrouve un des types, il y a un combat, un duel entre chaque type, il en ressort vainqueur, on se dit bon bah une fois qu'il aura éliminé tout le monde, qu'est-ce qui se passera, quel est le but final du type, parce que bon le mec c'est un mercenaire, donc il s'en fout, il pense à rien d'autre qu'à baiser, à tuer, Bon, mais justement, l'astuce scénaristique, c'est justement de partir sur des mondes un petit peu nouveaux. C'est d'utiliser le personnage secondaire Willard, qu'on se dit, bon, bah, ok, c'est un dommage collatéral. Justement, au départ, on se dit, bon, bah, ok, il pourrait très bien ne rester qu'un dommage collatéral, c'est-à-dire deux pages dans la BD, puis basta. Et en fait, on en fait un des héros, en fait, de la bande dessinée. Et là, c'est vraiment très, très intéressant, c'est très rigolo. Alors, c'est vrai qu'au niveau graphique, ça part dans tous les sens, t'en prends plein les mirettes. Hein, là,
en plus, il y a une métaphore sur la dimension sexuelle, puisque Butcher Baker, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre l'orgasme. C'est quelqu'un qui baise à tout va, mais il n'y arrive pas. Et donc, c'est parce qu'il y a un truc qui lui manque dans sa tête, il y a une tristesse, une espèce de nostalgie, il n'arrive plus à retrouver ce qu'il faisait
triper. La tristesse du mercenaire.
Voilà. Et donc, c'est aussi une course à l'orgasme dans, bon, évidemment, métaphorique, c'est l'orgasme graphique, l'orgasme de n'importe quoi, donc voilà, c'est, on voit qu'il y a une montée vers la fin qui, voilà.
Donc Butcher Baker a conseillé vivement.
Ah oui, oui.
Par contre, c'est du Harry Bold, donc c'est quand même pour des gens relativement avertis, on va dire.
Oui, et puis c'est
pas pour les plus petits. Hein.
Voilà, et puis c'est un côté arty aussi. Attention, hein, c'est pas voilà, ça se lit pas comme ça. Il faut être assez concentré.
Ah oui, hein, parce que ça c'est pas le truc case par case. Non, hein, ça explose des fois, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment très très bien, en fait. On passe à Kick-Ass 2, le volume 2, Shoot de rue, c'est le titre en français, hein, clôt donc ce retour de Kick-Ass, et avec
La couverture affiche la couleur. Hein.
La couverture affiche la couleur. Alors moi, ce que j'aimais bien dans les précédents Kick-Ass, c'est que chaque fois il y avait une double page. Je sais pas si tu te rappelles, une double page absolument magnifique, généralement de scènes très sanglantes. Là, il fait que des pleines pages, on va dire, il y a pas de double page.
Là, t'es déçu, là.
Mais par contre, ça, pour annoncer la couleur.
Ah, ça envoie, ouais.
Pour annoncer la couleur, ça envoie, quoi, avec,
le retour de Hit Girl.
Le retour de Hit Girl, je fais juste en sorte qu'elle soit morte pour de bon. Parce qu'en fait, dans le tome 1 de Kick-Ass 2, si vous me suivez, Mindy n'est pas là. Mindy, elle a été récupérée par, on va dire son
père de substitution.
Son père de substitution, vu que son vrai père est mort dans Kick-Ass, on se rappelle, Big Daddy est mort, hein, descendu par le mafieux Genovese, dont le fils, ouais, Red Mist, avait été plus ou moins un allié, mais qui avait trahi donc Kick-Ass. Et là, le fils Genovese dans le tome 1, il revient pour se venger, et ça fait très très mal. Vraiment, ça dépote à fond les manettes. Mais là, en effet, si Kick-Ass, qui a quand même formé une espèce de groupe de super-héros, alors moi c'est pareil, hein, il faut regarder ça avec beaucoup de recul et tout, mais eux ils y croient, ils sont dans leur truc, tout en restant très réalistes, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment de super pouvoirs.
Oui, c'est une série, mais c'est super justicier, hein, c'est pas...
Voilà, c'est ça, quoi. Donc ça se passe plutôt relativement bien, mais quand survient une menace qui s'appelle Red Mist, qui s'est fait débaptiser, il allait faire un stage du côté de Moscou, et là, il se fait rebaptiser Motherfucker. Là, on peut se dire, ça va dépoter. Et dans le tome 2, l'affrontement qui devait arrive entre Motherfucker et Kick-Ass. Sauf que là, la petite Mindy est de retour. Elle est de retour, parce que
Elle était engagée par une promesse.
Voilà, c'est ça.
En fait, on sentait qu'elle voulait prendre part à ces bastons, mais elle avait promis qu'elle ne remettrait plus.
Élément au début du deuxième tome. Il y a un élément déterminant qui va dire qu'elle va outrepasser ses droits. Elle va se dire, il y a une limite qui a été franchie d'un côté. Je vois pas pourquoi nous on franchirait pas cette limite non plus. Et elle, c'est vrai que c'est la plus écervelée, la plus tête brûlée à ce niveau-là, parce que il y a une page de dialogue entre Kick-Ass et Mindy pour savoir s'il faut remettre, si ça vaut le coup de combattre le bien, faut faire le bien, on peut franchir les limites. Enfin bon, des histoires de morale comme ça, quand même, sont très intéressantes, car elles sont bien centrées en plus dans l'ère du temps, c'est-à-dire ce sont des héros, des jeunes ados, on va dire, des teenagers qui sont en train de discuter et qui sont dans le moment et qui discutent justement de ces choses-là qui sont relativement essentielles. Et c'est là que on se dit que c'est pas simplement une histoire de baston bête et méchante, c'est très violent, attention quoi. Il y a pas de problème. Il y a même une histoire de bestiole, je vous dirai pas laquelle, mais l'histoire de la bestiole, le requin en l'occurrence, c'est plutôt l'élément comique on va dire, dans la bande dessinée, parce qu'il faut quand même un petit peu relâcher la tension.
T'as remarqué qu'il dit une histoire de bestiole, je vous dirai pas laquelle, c'est un requin.
Non, je vous raconterai pas l'histoire du requin, quoi. C'est ça, quoi, tout simplement. Bref, on est à fond dedans, et ce qui est très intéressant, c'est que, bah, à la fin, bon, bah, ok, hein, voilà, c'est ce qui c'est. Généralement, dans les Kick-Ass, on se dit merde, putain, j'espère qu'il y aura une suite. Là, il y a une troisième série qui est en préparation. Et en attendant cette troisième série, il y a, on va dire, une petite série dérivée, mais qui va concerner uniquement Mindy. Ça se comprend vu la fin. Ok, je vous en dis pas plus. Voilà, c'est Victor Chez. Vas-y, fais-toi plaisir, régale-toi. Le Kick-Ass 2, tome 2, donc, qui vient de sortir dans toutes les bonnes crèmeries.
Fred et Franck, est-ce que vous avez vu le, est-ce que vous avez vu le film, est-ce que vous avez apprécié?
Oui, j'ai vu le film. Oui, j'ai vu le film aussi. Et je pas, moi, je suis pas trop client en fait. Je trouve que c'est un peu sous le couvert, soi-disant d'un truc un peu trash, etc. J'ai trouvé ça ultra moral et voilà. Je préfère de largement le super. Voilà.
Ouais,
c'est,
super.
Super. Le film qui s'appelle Super. Voilà.
Super, c'est un film de pareil, c'est le même principe en fait, mais c'est moins, c'est un peu plus cracra quoi.
Oui, ouais, ouais.
Voilà. Ah, c'est trop propre.
Bah, Kick-Ass, oui, enfin le film. Je, ouais, après, ouais. Je connais pas hein, le comics. Je connais pas.
C'est mais... copié-collé hein, du comics, hein, de toute façon quoi.
Voilà. Mais c'est vrai version. Que j'avais été, comment dire, je trouve que sous le couvert de quelque chose de super trash, etc. On a finalement, on arrivait à quelque chose d'assez moral. Et d'assez d'assez simpliste.
Ceci dit, après, enfin, là, je me rappelle pas spécialement quoi, mais dans mon dans le souvenir que j'en garde, c'est un film qui tient à sa cible aussi quoi, parce que c'est une production justement pour teenagers et il respecte les codes un petit peu de violence, mais point trop. Truc par rapport à la musique, enfin c'est très Jones quoi quand même le film, un petit peu décalé mais gentiment décalé, on y va pas trop quand même quoi. C'est ouais, vrai ouais. Que comparé à Super par contre où là ça dérape ouais. Quand même. Ouais.
Donc Super les références du film alors c'est sorti quand, de qui?
Ah,
les...
Super malheureusement n'est pas sorti en salle sorti, mais hein. c'est assez logique en fait puisque le Super est un peu la même base que Kick-Ass hein. On se retrouve avec un personnage en fait l'histoire est somme toute assez basique, c'est un kidam en fait voilà qui est marié, qui est bien pato dans sa vie voilà de tous les jours et sa femme va se faire kidnapper par des méchants trafiquants de drogue et à partir de là il va dire il faut que je devienne un super-héros voilà pour sauver sa femme. Le seul truc, c'est vrai que c'est pas très simple d'être un super-héros. Et il y a un truc qui est super intéressant en fait dans Super, c'est le traitement de la violence. C'est-à-dire que le film est très très violent. Il n'y a pas énormément d'ailleurs de scènes de violence, mais reste que la violence, ça fait mal. Et elle est traitée de cette façon, c'est-à-dire que le premier coup de poing, le premier coup de clé à molette.
Clé anglaise.
Voilà, le super-héros est armé d'une clé anglaise. Donc le premier coup de clé à molette fait véritablement très mal, quoi. Voilà.
C'est-à-dire, il met un coup dans la tête, mais la tête, elle explose, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu sens le truc, tu te dis, ouais, un coup de clé à molette bien lancé, quand même, ça fait des dégâts.
Voilà. Et donc, alors évidemment, ce super-héros a une sidekick. Voilà. Et c'est une histoire en fait qui est complètement touchante, mais surtout ce qu'il y a de super intéressant, c'est que c'est vraiment deux sociopathes en fait. Voilà.
Quelque part, c'est ça. Millard s'est inspiré de ce film-là parce qu'on retrouve vraiment des parentés. Alors c'est sorti quand? Enfin c'est fait quand?
C'est sorti en DVD Blu-ray il y a il y a une petite année.
Moi j'en mettrais deux quand même, non?
Oh, je sais pas, moi je dirais.
Et donc, c'est un film récent,
c'est à peu près la même période que Kick-Ass, hein, en fait, hein, sauf qu'il est pas sorti en salle.
C'est venu après, c'est venu un petit peu.
C'est juste après.
Kick-Ass, c'est le premier, voilà, ça on peut pas lui enlever ouais, ça, ouais. Hein, voilà,
je ne sais plus si c'est américain ou si c'est pas canadien, en fait.
C'est américain. Hein. Je me souviens plus du nom du réalisateur, je vais le chercher tout à l'heure, mais voilà, c'est Tom James.
Mais super, ouais, conseiller super, à voir.
Très bien. Bon, du sport, on se fait une petite coupure musicale avant d'entamer la page Extrême Cinéma. Donc on rappelle, amis auditeurs, si vous voulez gagner des places pour le festival qui aura lieu de mardi à samedi prochain, appelez au 05 61 580 580.
Radio Éphémère toujours, il est midi 42 carrément, et on n'a toujours pas parlé de ce pourquoi on a invité.
Oh bah y a pas de problème, on est bien nous, hein, ça va.
Vous êtes bien au chaud, ça va,
il y a du café. Ouais, c'est bon, il y a du café. Ouais, c'est bon, hein.
Alors voilà, ouais, on va commencer cette page Festival Extrême Cinéma. Donc nous invitons nos amis auditeurs qui voudraient avoir plus de renseignements sur le Festival Extrême Cinéma de réécouter leur passage dans l'excellente émission Cinécure qui a eu lieu mardi dernier, puisque nous, on a une conscience aussi, on pense à vous aussi, on va pas vous poser les mêmes questions. Quoique, on aurait pu, parce que pour voir si vous aviez changé d'avis ou pas.
Ouais, on est assez pervers, on aime bien dire des choses complètement contradictoires d'une émission à l'autre.
Ah putain, je t'avais dit, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Et bon voilà, donc on va essayer de faire des questions complémentaires par rapport à l'émission Cinécure qui est téléchargeable en podcast sur le site de Radio FMR, radio-fmr.net. Alors Zoofilm, bon rassurez-nous, on approche de Noël, vous n'êtes pas orienté Disney maintenant, c'est bien la saloperie d'animaux, c'est pas Beethoven quoi.
Non, absolument pas.
C'est pas non plus Sauver Willy. Voilà, à un moment donné, j'ai plus Fred avait balancé sur Facebook un truc sur Sauver Willy et des gens
qui l'ont cru.
Il y a un spectateur qui est venu me voir qui m'a dit mais quand même c'est une blague. Vous allez pas passer Sauver Willy. J'ai dit non, c'est une blague effectivement.
Oui, t'as fait pas mal de blagues sur Facebook d'ailleurs pour les préparatifs.
Bah oui, j'avais pas trop quoi faire en fait. J'avais rien à dire donc voilà, je me suis dit on va faire des blagues.
Autant rien dire.
Alors les derniers thèmes. Alors moi, c'est dur d'avoir un listing exhaustif des thèmes que vous avez abordés dans les précédentes éditions. Donc c'est la 14e édition. Ouais. Les derniers thèmes pêle-mêle. Donc il y avait l'hosto, il y avait l'enfer. Alors c'était avec des termes un peu plus poétiques et qui englobaient un peu plus que l'enfer. C'était inferno. Mais bon. Alors l'enfer, sexe et pouvoir, les frics, je crois. Cette année, les animaux. Franchement, après 14 éditions, est-ce que la liste des thématiques possibles ne commence pas à se tarir un petit peu?
J'ai envie de te dire, à mon avis, elle est déjà tarie parce qu'au final, derrière tous ces titres, c'est toujours la même chose qui nous intéresse, quoi. C'est la violence et le sexe, quoi. En gros, c'est toujours ça qui ressort, hein, dans les. C'est juste, j'ai envie de dire presque, on met une thématique pour habiller, mais au final, ça reste toujours du poil.
D'accord.
Ah bah voilà.
Ok. Ça on va le garder pour.
Et ça on s'en lasse pas.
est-ce que avec le recul vous dites tiens on a grillé peut-être quelques cartouches, même si il vous arrive certainement de reprogrammer des films qui ont été programmés au sein d'une autre thématique. Est-ce que vous dites pas si je l'avais fait cette année cette thématique là j'aurais fait différemment, j'avais oublié des films à l'époque ou.
Oui, bien sûr en 14 ans. Oui, 14 ans bien sûr. Moi 14 ans déjà je trouve ça très long en fait. Je trouve ça super.
C'est incroyable, hein, 14 ans.
Oui, 14 ans. Ouais. Moi, je pensais pas. Moi, quand j'ai commencé Extrême Cinéma, je pensais pas que ça durerait 14 ans.
Et ouais. Justement, pour la 15e, ce serait assez intéressant de faire un spécial. Tout ce que vous avez loupé pendant les 14 éditions précédentes, qu'on n'a pas pu mettre, mais qu'on voulait mettre quand même.
Je crois que c'était presque ça quand on a fait les 10 ans. Ah. En fait. Parce qu'on avait fait un menu best-of pour les 10 ans.
D'accord.
Et c'était genre. Alors, très honnêtement, les 10 ans, moi, je savais plus quoi faire. Je savais plus. J'étais en manque d'idées totale, voilà. Et du coup, le menu best-of est venu de là, mais l'édition en fait des 10 ans, c'était pour se faire plaisir. C'était des trucs que moi perso, quelques trucs que j'avais pas vu en salle et que je voulais voir. Voilà, des films que je connaissais évidemment, mais voilà, c'était un peu une édition égoïste qui a pas si mal marché que ça d'ailleurs. En ouais. Fait, comme quoi.
Oui, c'était assez égoïste et c'était la plus. J'allais dire la plus simple possible, quoi, en fait, en termes de programmation, parce qu'on s'était vraiment pas pris la tête, hein.
Ah oui, là, c'était
easy. Ah ouais, ça avait été fait.
On l'a fait en 2 heures,
la programmation. Ça a été fait ça, quoi, en fait, hein. On avait dit, on fait des doubles programmes, en gros, par genre, qu'est-ce que t'as envie de voir, ouais, ça, hop.
Voilà, mais je sais pas si ça se tarie ou pas, je crois pas. On remontre, en fait, des choses, parce qu'on s'est aperçu, finalement, qu'il y avait, que le public évoluait. Et moi au départ j'étais contre pour remontrer en fait des films, je voulais faire juste des one shot comme ça, voilà, c'est
oui, parce qu'en plus généralement quand on lance un festival, on commence d'abord par les thématiques qui nous tiennent le plus à cœur, et donc il y a aussi des comme il y a la notoriété qui n'est pas encore là, c'est sûr qu'ils sont moins vus, donc là c'est vrai que enfin ben j'imagine oui. Que les 3 premières éditions vous avez mis tout ce que vous vouliez absolument voir et
Ouais, en premier. C'est bizarre parce que je me rappelle des premières éditions où j'étais. Je suis pas à l'origine d'Extreme Cinéma. C'est pas du tout moi qui ai créé Extreme Cinéma. Au départ, moi, j'étais juste, on va dire, consultant. Voilà, sur certains titres de films, et c'était les deux premières éditions étaient plus ambitieuses intellectuellement parlant. Voilà.
Et c'était plus ambitieuse aussi au niveau de la durée, parce que au niveau de la durée, ouais, ça a duré 15 jours.
Ah oui, quand même.
Ouais,
c'était 15
jours. C'est très long, il y avait énormément de films, peut-être trop d'ailleurs. Donc voilà, et après quand j'ai pris les rênes d'Extreme Cinéma et que Franck est arrivé après par la suite, on a je dis pas que c'est pas ambitieux, mais ce côté le côté cérébral en fait a été gommé. Voilà, ça ne veut pas dire que ça
balancer
peut pas
réfléchir, un coup de pied et mettre plus de poils.
Il y a un côté plus brut qui est.
Ça veut pas dire qu'on réfléchit pas non plus quand même.
Oui, voilà, ouais. Mais il y a un côté plus brut de décoffrage qui est arrivé, mais que je trouve plus intéressant plutôt que de guider le spectateur qui voudra bien s'intéresser à Extreme Cinéma et qui reviendra pour voir plein de films. Voilà, les deux premières éditions, il y avait un côté mon jeune gars, je vais t'apprendre un peu ce que c'est. Voilà, qui moi me plaisait pas spécialement parce que j'aime pas c'est comme les films que je regarde, j'aime pas être guidé, voilà, j'aime bien avoir des portes ouvertes un peu.
L'idée c'est de pas donner de leçons en fait, quoi.
Ouais, voilà,
c'est vraiment de donner des choses à voir et à chacun de se faire son idée, quoi, tu vois. On va pas essayer à tromper, tu vois, dire par exemple il faut avoir absolument ce chef-d'œuvre oublié ou je sais pas, enfin tu vois, on est pas vraiment sur ce créneau là quand même, quoi. L'idée, c'est de montrer des choses autres.
Ceci dit, vous revenez un peu à une veine intellectuelle et tout, parce que si on voit juste les noms des réalisateurs, vous avez quand même pas moins que Werner Herzog, Cronenberg, Barbet Schroeder. Donc c'est quoi, c'est la partie Cannes là du festival là, avec ces trois noms.
Oui, mais c'est pas des films. C'est justement aussi peut-être parce que c'est des noms qui sont très cannois et qui pourraient effrayer une certaine frange du public et de dire, enfin tu vois, on est ouvert à tout à tout le cinéma un film comme Coco le gorille qui parle par exemple là de Schroeder, c'est un film qui reste hallucinant, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un documentaire, mais c'est pas le côté intellectuel en fait qui ressort. C'est pas montrer ce film parce que c'est un film de Barbet Schroeder, c'est montrer ce film parce que ce film reste assez hallucinant, qu'il se passe quelque chose avec ce gorille et que voilà, que quand on voit le film, c'est il y a quelque chose qui se passe, c'est presque King Kong en fait, quoi. C'est presque King Kong dans le réel, tu vois. Donc c'est intéressant et du coup ça marche, nous, enfin d'abord parce que d'abord on réagit en tant que spectateur quand même, quoi. Donc on a envie de montrer des films parce qu'ils nous touchent, il y a quelque chose qui se passe, j'ai envie de dire presque peu importe qui l'a fait, quoi. On prend plus l'objet que l'auteur, tu vois. L'auteur, ça, on laisse ça de côté, quoi. Voilà, on prend plus le film lui-même. Ben non, on fonctionne plus à l'objet, vraiment, quoi. C'est-à-dire que, enfin, un auteur, il peut faire un très bon film, il peut faire une grosse merde aussi, quoi. Tu vois, ça arrive, quoi. Et on n'est pas là pour défendre des auteurs, on est là pour montrer des films qui provoquent des choses, quoi. C'est ce côté un peu brut et instinctif dont parlait Fred, en fait, quoi. Je pense qu'il nous anime, en fait, dans la programmation, quoi.
Alors, on va rappeler que des places sont à gagner pour le festival Extreme Cinéma. Pour gagner des places, vous nous appelez au 0561 580 580. Vous avez toute l'émission pour participer. Mais je crois que du sport avait lancé l'idée de poser des questions en rapport avec un petit décalage et les animaux. Moi, j'en ai une première. Donc, c'est des questions complètement à côté, hein. Que cherchait à faire le mec qui a découvert que la vache donnait du lait?
Je pense qu'il a cherché à se nourrir.
Oui, mais voilà. Il savait pas que c'était du lait qui sortait.
Ah bah il a goûté.
Bah je pense qu'il a d'abord observé, quoi. Il a vu qu'il y avait un veau qui allait téter et il se dit peut-être quelque chose à en tirer. Hein. Enfin, il l'a pas vu comme ça, quoi, parce que tu sais les vaches elles éjectent pas juste comme ça, quoi. Donc je pense qu'il a juste observé. Il devait être un peu primitif. Il a observé, il se dit tiens, il y a une petite bestiole là qui va mettre son museau là-dessous et donc il s'en nourrit. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à en faire, quoi.
Vu qu'il fait pareil quand il est bébé, je veux dire, c'est relativement facile, quoi.
aussi.
Mais par contre, je sais que normalement le lait, par contre, c'est fait pour les veaux et pas vraiment pour les humains, et que c'est très riche et que en fait il faudrait pas qu'on boive de lait.
Oui, normalement.
Exactement, quoi. En fait, c'est pas fait pour nous, quoi.
Alors les produits laitiers dans ce cas-là
sont nos amis pour la vie. Oui. Voilà.
Ok. Du sport.
Une autre question. Est-ce que les chauves ont des cheveux blancs?
Oui, je pense à l'intérieur. Voilà. Je pense que tout le monde a les cheveux blancs, mais à l'intérieur pour les chauves.
Ah, mais pour les cheveux à l'extérieur aussi, parce que on a quelques, enfin, tu vois, moi qui suis atteint de calvitie, j'ai encore quand même quelques cheveux et donc, ils sont pas encore blancs, mais ils pourraient très bien le devenir dans quelques années.
Oui, mais ils sont doux.
Ah, ça.
juste une dernière question par rapport aux thématiques. Pour commencer chaque édition et définir une thématique, vous êtes combien à décider? Est-ce que toute l'équipe participe à ça? Comment vous procédez en fait? Vous mettez plein d'idées sur la table, vous choisissez, vous triez. Il y en a un qui a dû se mettre en retrait l'édition précédente. C'est lui qui est prioritaire sur la suivante. Comment ça marche?
Bah, disons que toute l'équipe, en fait, c'est nous.
D'accord. Donc une équipe à deux personnes.
Effectivement, okay. C'est toute l'équipe. Mais
l'équipe deux. Après, après les idées peuvent venir d'ailleurs. Hein. C'est pas ça, c'est déjà fait, hein, je pense.
Oui,
hein,
oui, parce qu'après on discute aussi avec d'autres personnes qui ont parlé des thématiques, et le dialogue crée des idées aussi, ou comble des lacunes.
On marche comme ça en fait, on fonctionne comme ça. C'est on se dit tiens, ce serait pas mal de faire un truc, de faire un truc là-dessus, voilà telle thématique. On réfléchit après.
Et est-ce qu'il vous est arrivé de faire une thématique juste pour avoir le plaisir de programmer un film dedans?
Non, ça je sais pas, je dirais pas.
Hein, moi je crois que j'ai fait ça, ouais. Enfin, pour montrer un film.
C'était lequel?
C'était un film japonais, je me souviens plus du titre. C'était ce film en fait. On a eu vachement de difficultés d'ailleurs à l'avoir. Il y avait quasiment personne à la séance. C'était, je crois, quand on a fait Petit théâtre de la cruauté. Je crois que c'était celui-là en fait. On a montré ce film japonais qui s'appelle. Oh là 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 là, la mémoire me fait défaut.
Film de torture.
C'était pas un film de torture en fait. C'est un truc assez barré en fait où une espèce de scientifique met au point une drogue en fait très très puissante qui va provoquer en fait chez les gens l'envie de se, on va dire, de s'auto-torturer.
D'accord. Voilà.
Et donc on avait une jeune fille là qui plongeait sa main dans de l'huile bouillante et qui se mangeait les doigts, une autre personne qui se mangeait un œil,
d'accord,
qui était graphiquement très très présent, hein, voilà, très très là. Et moi je tenais absolument à montrer ce film là. Voilà, et je crois que le petit théâtre de la cruauté est venu de là en fait. Juste pour ce film.
Et on imagine que vous voulez faire partager votre passion pour les films déviants au public. Est-ce que vous avez des fois, est-ce que vous voulez tester vos limites en disant, est-ce qu'on arrivera à choquer les gens avec celui-là, ou c'est pas du tout votre politique?
Non, c'est pas vraiment la politique quand même.
Moi, peut-être au départ, quand nous étions plus jeunes, peut-être que c'était comme ça en fait, pour tester certaines limites, mais à la fois je vais faire mon vieux con, je pense que c'était une autre époque, voilà. Je pense qu'aujourd'hui en fait il y a des choses qui sont graphiquement tellement excessives qu'elles ne le sont plus, voilà. Je pourrais parler par exemple de ce film qui avait fait son petit buzz à l'époque, qui s'appelait le Serbian Film. Voilà, qui a eu plein de problèmes partout, que moi j'ai vu, qui a été une déception. Voilà, je trouve que c'est un mauvais film qui est graphiquement très très excessif et qui finalement fait pas avancer le schmilblick. Voilà.
Oui, puis de toute façon la limite c'est que si t'es dans l'optique de choquer, comme Serbian Film par exemple, quoi, qui était vendu sur ce créneau là, c'est-à-dire on va vous choquer. Ben au final, en fait, bien souvent, tu te dis, ouais, bon, tout ça pour ça, quoi. Donc, c'est pas... Enfin,
je pense que c'est hyper dur de choquer aujourd'hui.
Ouais, quand même, ouais.
Je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très difficile, voire quasiment, à mon avis, impossible.
Il reste encore quelques sujets tabous, on va dire. Il y a encore quelques vélos qui n'ont pas sauté. Quoi.
Oui, oui, non, mais ça, je pense que
tout ce qui touche aux enfants, à mon avis.
Il en reste toujours. Il en reste toujours. Après, c'est vrai que c'est difficile. Mais pour moi, après, il y a des choses qui me choquent, qui sont totalement intégré et qu'on peut trouver partout quoi voilà c'est cette année on va passer The Woman qui pour moi est un film choquant qui est admirable voilà mais on peut pas parler de plaisir de spectateur voilà c'est pas un film j'ai ce film là je l'adore mais je peux pas dire à un moment donné super je vais passer un bon moment je vais regarder The Woman voilà non c'est faux. Donc c'est dans ce créneau-là, on va dire que on peut essayer de dire à un moment donné, oui, on va tester les limites. Voilà.
Quand vous êtes perçu par, j'imagine que vous avez des amis qui sont pas du tout dans ce genre de film et qui voilà, comment ils vous définissent ? C'est les deux gars dans le coin là qui programment des films bizarres.
Bah non, parce que je crois qu'on est assez normaux quand même.
Ouais, on est
parce que les gens qui nous connaissent.
Oui, parce que tu as même parlé de Looper à la radio, donc.
oui, on est comme tout le monde en fait, quoi. Enfin, y a pas de.
Ouais, je sais pas, je sais pas. Après,
on n'est pas stigmatisé, tu vois, genre.
Ça dépend des cultures. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont pas du tout attachés à ce type de culture, aux films déviants ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que des fois, je peux parler de certains trucs. Où c'est vrai qu'on va me regarder un peu bizarrement voilà je sais pas moi je sais que j'ai participé par exemple au dictionnaire de la pornographie et c'est vrai que là je me suis aperçu que c'était extrêmement bizarre parce que pour moi c'était normal c'était un travail comme un autre en fait et c'est vrai que là quand j'en parle quand je dis ah ouais tiens mais j'ai participé à ce dico de la pornographie là par contre oui c'est vrai que là on regarde un peu ah bon mais pourquoi parce qu'il faut
alors quand tu programmes des films avec des animaux et tout et des trucs avec la violence et des poils personne mais là quand c'est un dictionnaire de la pornographie ça grince un peu plus
ouais je pense que on parlait de verrou tout à l'heure mais finalement je pense que par exemple la pornographie est un verrou qui a pas sauté voilà
disons que là
qui se consomme énormément enfin sur le net et je pense après très peu en salle de cinéma ou en visionnement DVD etc mais voilà on se retrouve finalement avec quelque chose qui est admis par tout le monde qui est ultra consommé je pense par tout le monde mais ça reste quand même un verrou voilà ça se dit pas voilà c'est c'est assez étrange c'est l'ambiguïté de l'époque je dirais
que non ce qui doit être aussi bizarre c'est que si tu parles de pornographie ou que par exemple tu programmes un film porno à la Cinémathèque on va peut-être trouver ça un peu ils cherchent un peu à choquer mais ça va pas aller beaucoup plus loin alors que par contre si tu dis que tu travailles sur la pornographie parce que là en l'occurrence c'est ça quoi par rapport à un dictionnaire ça veut dire que du coup tu regardes des films pour les analyser pour en rendre compte historiquement qualitativement. C'est plus ça que du coup on va te regarder bizarre parce qu'on va se dire tu vois c'est pas la même chose que si tu dis tiens j'ai vu un porno bizarre et que tu dis tiens je suis en train de travailler sur la pornographie et là on va se dire comment ça travailler sur la pornographie la porno le porno tu vas voir ça sur le net ou je sais pas tu regardes ton film de cul dans ton coin t'en parles pas quoi et surtout pas c'est pas un sujet d'étude. Or, je pense que, là du coup quand toi tu dis quand tu travailles dessus les gens te regardent en disant mais comment ça.
Petite respiration musicale du sport.
Bah ouais, puis on en parlait comme ça hors antenne à propos de morceaux avec des animaux dedans et puis ça m'a donné une idée puis on trouve pas mal de choses en fait hein, sur YouTube.
Excellent. C'est ça ouais. We'll be right back.
I Wanna Be Your Dog, c'est une version un petit peu spéciale parce que interprétée par les Sonic Youth avec Iggy Pop, c'était en concert, c'était sur YouTube, c'est pour ça que vous excusez le son un petit peu dégueulasse.
On est toujours avec Franck Lubé et Professeur Thibault, les organisateurs du festival Extrême Cinéma qui débute mardi prochain, qui se clôturera samedi soir. Donc cette édition, cette 14e édition est consacrée aux zoofilms. Pour choisir ces films-là, comment vous avez fait? Vous alors, avez tapé sur Google animaux et films ou...
Attends, avant que tu poses ta question, moi j'ai un truc qui m'a interpellé. Puis en plus, quand tu ouvres le programme, c'est pratiquement le premier truc, c'est l'ouverture, c'est le film avec Lon Chaney. Oui. Il y a pas de bête dedans.
Ah non, mais on décale toujours.
Mais voilà. Le ciné-concert d'ouverture, il est
toujours décalé.
Il a rien à voir avec la thématique. Hein.
Ok. Alors toujours. Par contre, moi je recommande chaudement parce que Lon Chaney, hein, c'était quand même un des grands acteurs de la période du muet, sinon, enfin, c'était un transformiste, c'était l'homme aux mille visages, c'est comme ça qu'il était surnommé. Ouais. Il a inspiré, mais alors tous les gens que nous on connaît, ont vu les films de Lon Chaney, Karloff, Lugosi, tous ces gens-là, ils sont inspirés de ce mec-là. Et ce type, en plus, a fait une chier de films, quoi. Enfin bon, c'est assez incroyable, quoi.
Il a énormément de.
Il a vraiment tourné. Et là, à l'époque, il faut dire que il n'y avait pas les CGI, quoi. Il fallait tout faire à la main.
Oui, c'est un des pionniers des effets spéciaux de maquillage, en fait.
Tout à fait.
Il concevait lui-même ses prothèses, ses lentilles.
Voilà.
C'était un self-made man.
Ouais, il faisait tout lui-même, en fait. Il testait.
Ça, c'est un peu le The Penalty, en fait. Donc, le titre français, c'est Satan. Voilà. Quelle belle traduction. c'est un peu le film qu'il a révélé. Voilà. Il avait déjà beaucoup tourné avant.
Mais plutôt des seconds rôles.
Et là, en fait, c'est le film qu'il a vraiment propulsé sur le devant de la scène. Quoi.
Et vous avez marqué sur le programme le premier grand rôle d'estropié de Lon Chaney. Il en a fait d'autres ensuite.
Il est surtout connu pour ça, quoi. Dans L'Inconnu de Todd Browning, en fait, il joue le lanceur de couteau,
On lance avec ses pieds.
Qui lance avec ses pieds, on va pas rentrer dans le détail de l'histoire, parce que ça va être un peu complexe, mais il joue un manchot, quoi. C'est un mec qui se coupe les bras, à un moment donné, quoi, par amour pour une femme, qui finalement va lui préférer l'homme le plus fort du cirque, en fait, quoi, pour se lever dans ses bras. Et bon, voilà, il joue toujours des personnages assez ambigus et des personnages excessifs et toujours des personnages malheureux.
Et là il faut dire en plus que malheureusement c'est un pionnier du maquillage et il est mort de ça d'ailleurs hein, parce que il a été empoisonné par les tonnes de maquillage qui se foutaient sur la gueule et à l'époque c'était pas on va dire des trucs biotestés quoi, c'était vraiment à la truelle des produits plus ou moins expérimentaux des fois ça lui a pas réussi. C'est un petit peu dommage, il est mort à la charnière du cinéma parlant muet en 1930.
C'est ça qui est le grand drame de sa vie et le paradoxe en fait, c'est que il est mort après son premier film parlant. Il est mort d'un cancer de la gorge. En fait quoi. Et dans le premier film parlant, alors que c'était une star du muet et que vous savez que le passage du muet au parlant, beaucoup de grandes stars du muet ne sont pas passées, n'ont pas réussi le passage au parlant à cause de leur voix justement quoi, parce que soit la voix était mal placée, soit parce qu'ils n'avaient pas du tout une belle voix en fait
soit qu'ils savaient pas jouer quoi.
Et lui avait très bien réussi parce qu'en fait dans ce film il incarne 5 voix différentes en fait dans le film et juste je crois que c'est quelques mois après en fait il est mort d'un cancer de la gorge, ce qui est assez
ironique.
Exactement, voilà. C'est ça.
Voilà, c'est lui qui aurait dû jouer le monstre de Frankenstein.
Oui, tout à fait.
Qui avait été choisi par Universal. Voilà, il aurait dû incarner.
Et il devait pas jouer Dracula aussi?
Ou c'était Dracula?
Je crois que c'est Dracula. Il devait jouer le Dracula de Todd Browning. En fait, c'est lui qui devait jouer.
Ah oui, puisque Dracula c'est le premier. Alors
c'est
oui,
ça,
oui,
c'est Dracula. C'est Dracula.
Et paf. Et paf. Et bim. Et voilà. Et bonjour, Béla Lugosi.
Pour jouer là, ouais, c'est ça.
Et on a eu droit, bon, bah, à son fils, hein, bien sûr, Lon Chaney Jr. Et, oui. Et tout, mais bon, qui n'avait vraiment pas le talent de son père, loin s'en faut. Mais qui a exploité le nom, quoi, avec plus ou moins d'habileté, de toute façon. Bon, bah, il était aidé par les producteurs, hein, je veux dire, bon, bah, ok, hein, il y avait un nom, donc, il y avait du pognon à se faire, hein, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est le ciné-concert d'ouverture. Alors ça, c'est à pas louper, hein. Moi, je le conseille vivement, là, ce
truc. Oui, il faut le voir, ouais.
C'est grand, hein, c'est pas mal, quoi. Et ensuite.
Oui, alors je reviens à ma question pour choisir la programmation des films Zoofilm. Donc, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez tapé sur Google? Est-ce que vous avez fait interroger votre mémoire?
On ne sert pas du net, aussi bizarre que ça puisse paraître. On suit l'actualité plus ou moins, tout ce qui se passe, les festivals, je pense qu'il y a une grande majorité de festivals, enfin du moins avec ces parties un peu rétrospectives. Je pense qu'il se voilà, l'erreur c'est de se servir du net.
Ouais, mais quand tu te dis tiens, mais comment il s'appelait ce film là?
Bien sûr,
t'as les icônes, t'as les trucs, tu vas voir.
Qu'il y a les livres aussi, ouais.
On tape pas,
Vrai que ça existe aussi les livres.
On le.
Oui.
Bah, mais tu peux pas faire un contrôle F dedans pour.
On ne voit pas ça du tout comme ça. C'est-à-dire voilà, on ne tape pas animaux cinéma ou animaux méchants cinéma ou je ne sais trop quoi.
Tu crois que ça... Putain, je me demande ce que ça donne en fait.
Animaux méchants.
Voilà. Animaux méchants.
On fait des listes. Ah. Voilà, on fait des listes de films et on voit ce qui sent, on voit ce qui s'en dégage.
On confronte, et on voit où est-ce qui ressort.
En général, on part sur des piliers quand même de prog. Voilà, moi je travaille comme ça. Je pars sur 3-4 films, par exemple, qui me semblent taper dans le sujet.
Donc là, je pense que l'un des piliers, c'est King Kong.
C'était
plutôt Link en fait là.
Après, pour le coup, là, il y a Link. Pour moi, était un des piliers de la prog. Il y en a un autre en fait qu'on n'a pas pu avoir, qui était le Monkey Shines de George Romero.
Incident de parcours, en français.
Voilà, qui est un film qu'on n'a pas pu voir pour plein de raisons. Qui était aussi ça faisait partie des piliers de prog. Après, avant King Kong, je pense qu'il y avait Cat People.
Il y avait de Jacques Tourneur. Parce que justement, King Kong, c'était là pour le coup, on n'était pas tout à fait d'accord parce que moi, je me disais que King Kong, peut-être que c'était un film, tu vois, en cinémathèque quand on a déjà montré. Je me disais est-ce qu'il faut vraiment le montrer? Moi, au départ, j'étais plutôt pour ne pas le montrer en fait, quoi. Et Fred me disait non, quand même, attends, c'est un chef-d'œuvre, c'est pas possible. C'est pas parce qu'il aurait été vu et tout, il faut le mettre. Je pense qu'il avait absolument raison. En fait, il fallait.
Il faut pas négliger non plus la dimension de les gens qui adorent des films et qui l'ont déjà vu et se dit ah mais merci de le mettre en salle, quoi.
La
redécouverte.
Après sur les questions de rareté en fait, quoi. Mais tu vois, comme La Mouche, c'était pareil en fait. King Kong et La Mouche, moi j'aurais été pour ne pas les montrer. En soi, non, ils sont bien là, quoi. Et puis c'est bien aussi, de montrer des grands classiques, en fait, quoi.
Alors, vous montrez, vous êtes déjà justifié dans l'émission de Bruce, mais je voudrais quand même une explication. Donc, Frankenheimer, Val Kilmer, Dr. Moreau. Alors, je rebondis sur l'expression raté magnifique. Qu'est-ce qui différencie un raté qui est moche et un raté magnifique? Pourquoi vous allez programmer celui-là et pas un raté tout court?
Dans la programmation quand même, quoi.
Pour L'île du docteur Moreau, le premier but a en fait été de montrer les deux versions. Enfin, il y en a même trois, puisqu'il y a un film qui date de 33 de Earl C. Kenton avec Charles Lockton qui est un monument au même titre que King Kong, Les Chasses du Gonzarov, Frankenstein, La Fiancée de Frankenstein,
les années 30.
C'est vraiment un très 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 grand chef-d'œuvre de l'histoire du film fantastique. L'idée était de montrer ce film de Earl C. Kenton et de montrer cette version mutante qui est signée donc John Frankenheimer. Ce qui fait pour moi que c'est un raté, on va dire, magnifique. C'est on en arrive à quelque chose qui est totalement aberrant, c'est-à-dire que ce film a englouti des millions de dollars parce qu'il a coûté des millions de dollars. Et on se retrouve avec quelque chose, j'ai parlé des faux raccords qu'il y avait dans le film.
Oui.
On se retrouve avec des choses presque inadmissibles pour ce type de production.
Oui, puis c'est quand même
qui est censé être carré. Qui est censé être carré, sensé, etc.
Ça fait un ultra combo ouais, sur la filmographie. C'est une tâche monstrueuse sur la filmographie de tous les participants du film.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est oui, un oui. film. Mais même le film est. Moi, j'ai déjà discuté du film avec pas mal de gens. Le film est vraiment pas. Enfin, est détesté, quoi.
Oui, voilà. On peut aimer des ratés, mais ça, c'est pas possible.
Voilà. Et je trouve que c'est. Moi, je trouve que quelque part, c'est très fun d'avoir ce blockbuster parce que ça n'est
pas. Ouais, parce que j'allais dire. Et pourtant, c'est un film qui a été vu par beaucoup de gens à sa sortie en salle.
Oui, hein, oui, tout à fait.
Vraiment le gros truc hein, c'était ah pas oui, un y avait petit des noms film
et effectivement on se retrouve avec des aberrations dans ce film voilà notamment avec les jour nuit mais c'est digne d'un film d'Ed Wood
en tout cas on
voit c'est du Ed Wood c'est du Ed Wood à 60 millions de dollars voilà c'est en ça que je trouve que c'est un raté magnifique
en tout cas on vous remercie de programmer dans Extreme Cinéma un film avec un acteur dont on parle beaucoup dans cette émission qui est Marc Dacascos.
Oh bah.
Même s'il a un tout petit rôle.
Maquillé là. Là oui, il est oui, très oui. très maquillé.
Mais bon, ça fait bizarre quand même. Je suis Marc Dacascos.
Voilà. Il y a Ron Perlman aussi. Hein,
oui, oui,
il y a Ron Perlman. Maquillé. Ouais. Enfin voilà, mais c'est pareil, quoi, son grand rôle. C'est quasiment la figuration quoi.
Non, c'est un film ahurissant. Ahurissant.
Oui, alors bon, je retrouve dans les fiches parce que on a posé pas mal de questions déjà. Ouais, alors on a décompté dans les animaux qui sont présentés dans les films. Alors on a des cochons, on a du loup-garou, des chiens, on a un canard. Ouais. On reviendra après sur le canard. Un cheval, des gorilles, un grizzly, des bêtes mutantes, un vampire.
C'est un loup-garou.
Le film s'appelle Les Vampires du Docteur
Mangala. Il y a un vampire aussi, il y a un vampire dedans, mais
le personnage principal est un loup-garou.
Voilà, bon, je me suis fait avoir par le titre, effectivement. Une mouche, des rats, une femme sauvage, une féline. À un moment donné, est-ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas trop de singes? Il y a quand même, il manque des dinosaures. Faut le dire.
Ah, il manque d'autres choses, hein, je pense. Enfin, il doit manquer d'autres bestioles, quoi.
Non, je sais pas s'il manque des trucs, en fait, parce que comment dire en fait c'est une programmation qui on va dire c'est en gros c'est qu'est-ce qui relie l'homme à l'animal quoi voilà quelle est notre part animale quelle est
la limite tu vois cette espèce de frontière fragile entre l'homme et l'animal voilà. Quand même qui reste tu vois qui reste présente quoi dans la programmation quand même donc c'est pas simplement on va dire le cahier des charges c'est pas qu'il y ait une bestiole.
Oui.
Tu vois c'est quel rapport il peut y avoir entre la bestiole et entre l'animal et l'homme
oui, ou
la
femme est, quoi, le personnage oui, quoi, comme voilà. L'humain voilà. Est un animal comme les autres aussi. Donc c'est pour
on dit qu'il pense.
Oui.
Ça je suis pas sûr hein.
Ce qui est différent ce qui devrait le ouais.
Voilà, mais c'était l'axe de la prog, voilà.
C'est oui, comme quand même ça pour, quand même pour, mais quand même, voilà, ça a permis de réduire, on va dire, un petit peu le champ, quoi, parce que sinon.
C'est vrai que parler de l'homme à travers le dinosaure, c'est un peu costaud, quand même, c'est difficile.
Ah, c'est pas évident, hein, on a cherché, hein, mais c'est pas très très évident. Donc voilà. Mais voilà, moi je reviens sur des films comme Link.
Mais si tu dis du dinosaure, t'en as dans King Kong, hein. Il y a un dinosaure qui se balade dans King Kong, hein. Parce que c'est un monde, c'est une espèce de monde perdu.
Il y en a plusieurs, mais il y a deux combats.
À un moment donné, il se bastonne avec un dino. Hein,
pour sauver
la belle. Main,
ouais. C'est vrai, donc il y a un dinosaure, donc je le raye, je le note.
Je passe sur moi aussi. Alors le dinosaure est présent, ok. Il n'y a pas de chat, effectivement.
Cinématographiquement, après avoir casté autant d'animaux, quelle race finalement, hormis une question de métaphore sur la démarche du réalisateur derrière pour parler de parce que forcément le singe il a beaucoup de parenté avec l'homme. Quelle race vous paraît la plus cinégénique finalement?
Ouh, ça c'est une question difficile.
Ouais. Là, j'en sais
pas. La race d'animaux la plus cinégénique. La plus cinégénique. Moi, pour moi, c'est bizarrement, ça va être le chien.
Ouais, mais je redis la même chose, mais parce que aussi.
Tu dis pas ça parce qu'il est à côté de toi.
Non. Je dis pas ça parce que j'ai la mascotte de Next Time Cinema.
Non, mais
aussi
parce qu'on prête beaucoup. Enfin, je veux dire en général, hors cinéma, on prête beaucoup d'intention au chien. C'est quand même un animal, un animal de compagnie auquel on prête. On peut prêter des sentiments ou on peut presque prêter des pensées en fait quoi. Donc je pense que du coup ça se répercute aussi au cinéma.
Ouais bah c'est aussi parce que c'est un animal domestique qu'on peut dresser donc c'est plus facile de le faire tourner.
Oui, déjà. Disons qu'avec le chien, ce qui est bien, c'est qu'il peut être aussi sympa que qu'un méchant. Ouais. Voilà, on programme Cujo de Lewis Teague, là aussi, qui est un film formidable, ouais. Très 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 bonne adaptation d'ailleurs de King, malgré la fin, voilà, qui moi me plaît moyennement. Mais voilà, on a cette espèce de gros Saint Bernard, et ça fait partie des chiens les plus sympathiques qu'on puisse trouver sur cette planète, je pense. Ils sont censés en plus se sauver. On a tous l'image du Saint Bernard avec son tonneau, voilà.
Et le rhum.
Voilà, avec le rhum là qui vient vous sortir de dessous la neige là pour vous servir un petit coup. Et en fait, du coup, ben là voilà, c'est une vraie saloperie. Voilà, et cette espèce de combat là, de face à face entre cette mère de famille et ce Saint Bernard, à un moment donné, on se demande d'ailleurs qui est le plus sauvage.
Vous avez une question du sport?
Non, pas spécialement, non. Quoi. Ou une question à la con, si tu veux, quoi.
Ah oui.
Justement à propos de chiens, pourquoi les chiens d'aveugle n'aboient-ils jamais?
Je savais pas déjà.
Ouais, quand tu croises un aveugle avec son chien, le chien il t'aboie pas dessus, quoi.
Pas parce qu'ils veulent pas effrayer, ils veulent pas effrayer leur maître. Peut-être que s'ils aboient, voilà, les aveugles ils s'y attendent pas. Et puis hop.
Ah oui,
un aboiement et c'est la crise cardiaque.
Ouais. Non, pourquoi?
J'en sais rien non plus.
Ah, t'en sais rien non plus, je pensais que t'avais une réponse, moi.
Il n'y a pas de réponse. Et la question un petit peu poulet et œuf. Selon vous, la couleur orange est appelée comme ça à cause de la couleur du fruit qu'on appelle orange, ou est-ce que le fruit qu'on appelle comme ça parce qu'il est de couleur orange?
Oui, ça c'est très compliqué. Ouais,
moi j'ai dit c'est comme la poule et l'œuf, quoi. Il n'y a pas de réponse.
Il n'y aura pas de réponse. Moi, je pense que c'est quand les gens ont dû définir les couleurs par des mots et qu'ils ont dit, ben, celle-là, on va l'appeler orange, et puis que ça devait coller avec le fruit, quoi, tu vois.
Ouais. Peut-être.
Howard the Duck.
Howard the Duck. Oh mon dieu.
Disney qui rachète Lucasfilm.
Ouais.
Et une blague qui a tourné un peu sur le net. C'était en fait pour avoir la mainmise sur tous les personnages Marvel, puisque Lucas avait, le seul personnage Marvel qui pouvait pas adapter. Howard the Duck. Donc effectivement, là vous me disiez tout à l'heure, oui, c'est plus les démarches des réalisateurs, ça correspond plutôt. Alors là franchement, là vous êtes voilà.
Bah, c'est comme l'île Docteur Moreau, en fait, quoi, c'est une aberration aussi, quoi, je pense, c'est un peu le même.
C'est une
blagounette.
Oui, c'est une blague et à la fois voilà, on est dans quelque chose qui est un peu la quintessence, on va dire, quelque part, de cette programmation. C'est-à-dire qu'on accorde des qualités humaines à un canard.
Un canard de l'espace, voilà, quand même, attention. Enfin,
l'inverse est valable aussi. donc, voilà, ça fait partie de ces films, en fait, où on se retrouve, en fait, avec des, j'allais dire des animaux qui parlent. Là, War of the Duck, c'est un petit peu plus poussé.
Oui, voilà. Quand même. Ouais, ouais.
C'est un petit peu plus poussé, mais c'est tellement étrange, cette chose. C'est pas un bon film. Hein.
Ah non, c'est pas du tout un bon film.
C'est raté. Hein. Mais voilà, c'était intéressant. Ouais, je pense que c'était intéressant de le programmer. C'est la petite blague, je pense. Là.
Oui, c'est la blagounette, quoi. Mais parce que c'est pareil, quoi. Pour moi, c'est un peu comme l'île Docteur Moreau, en fait, quoi. C'est une aberration, pour des raisons différentes. Mais là, une aberration, c'est-à-dire, on veut faire un film de teenager, et, donc, on essaye de mettre tous les ingrédients, tu vois, pour faire un film qui va rapporter son petit profit. Et puis, sauf qu'à l'arrivée, en fait, ça fonctionne, mais absolument pas, quoi. C'est complètement, c'est raté, ça marche pas, quoi.
En gros,
ça tombe à plat, quoi. Et tu te dis, voilà, ouais, effectivement, qu'est-ce qu'il leur a appris? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, il y a des mecs, il y a des décideurs qui se sont dit, ouais, ok, une histoire de canard qui parle, qui vient là pour sauver la planète et tout, machin. On se dit, tiens, banco, on y va, ouais, ça va marcher, quoi. Et ça aurait pu, mais ça marche pas du tout, quoi. Et puis, en plus, le fait que ce soit Lucas qui soit derrière, quoi, c'est ça aussi qui est drôle, quoi. C'est vraiment la blagounette, là. C'est notre côté un peu, on se fout de la gueule, quoi.
Bah, c'est le film de super, le film de comics qui est aussi loupé que Nick Fury, par exemple, quoi.
Oui.
C'est le même genre. C'est vite emballé. On va se servir du nom, on va dire, hein, de la marque, de la brand, et on va essayer de vendre tout ça. Seulement, bon, bah, il faut quand même faire un bon produit avec. Hein, à l'inverse, par exemple, on en revient à Kick-Ass, qui était une excellente BD et qui a été mise en film avec la même efficacité. on va dire, hein, pour un résultat qui a rien à voir avec le résultat de World of Duck ou Nick Fury et tout, quoi.
C'est
heureusement qu'ils ont rectifié le tir après, quoi.
Comme disait Franck, comment on dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des décisions et on peut se dire effectivement qu'est-ce qui leur a pris, qu'est-ce qui a pris à George Lucas à un moment donné. C'est moi je trouve ça assez fascinant en fait de me dire qu'il y a des gens à un moment donné dans leur tête ça va faire tilt sur voilà, on va faire un film adapté d'un comic book, voilà, avec un canard qui vient de l'espace, qui parle et qui joue du rock'n'roll, quoi. Mm. Je veux dire, c'est aberrant.
Ceci dit, Lucas est assez coutumier du fait quand même, parce que dans le genre aberration, il avait fait aussi il avait produit une série télé avec les Chewies. Pas c'était un truc avec tu sais une famille genre oui, un truc oui. Genre toi un peu swap quoi
c'était pas un truc pour et Noël
il y avait le Star Wars Christmas Special qui est on le trouve sur le net voilà mais qui est une aberration aussi voilà qui était un swap tourné en studio donc voilà où on avait Chewbacca, il y avait même Madame Chewbacca.
Ouais, c'est ça, mais il y avait Madame et les petits
c'était fou. Chewies, quoi. C'était fou. Hein.
Parce que ce mec a fait des trucs bizarres quand même quoi.
Une question sur les considérations cinématographiques en général, pas sur Extreme Cinéma. Quand vous êtes chez vous et que vous mais pas avec des amis et tout pour vous, est-ce que vous prenez plus de plaisir à voir des aberrations en vous remettant des nanars ou en vous voyant on va dire ce qu'on appelle des vrais films, c'est-à-dire que si par exemple on vous dit votre film préféré et tout, vous allez peut-être certainement, c'est aussi une question subsidiaire, parler d'un film normal, un film classique, mais justement le plaisir finalement que vous procurez chez vous, est-ce que c'est pas vraiment finalement en regardant des aberrations, des ratages magnifiques?
Bah ça dépend en fait, moi j'ai envie de dire, tu sais, il y a un moment pour tout quoi. C'est comme en littérature, enfin je veux dire quand tu lis un bouquin, des fois tu vas lire un truc un peu costaud, tu vas lire un essai, tu vas lire une BD, tu vas lire un roman noir, tu vois, il y a un temps t'as des envies et des fois t'as une période t'as envie de te faire des classiques ou il y a des soirs en semaine où tu dis tiens ça va plutôt être le classique et tu vois, ou le dimanche après-midi tu vas te faire ton petit western classique, là t'es bien content, ou un petit boy teacher ou comme ça, c'est cool. Et par exemple le samedi après-midi tu vas te faire l'aberration quoi, ou ça peut être là, ou ça peut être je sais pas, ou ça peut être entre midi et deux, tu vois, il y a des moments et tu cherches pas la même chose, tu vas en trouver mais il y a différents plaisirs quoi, c'est-à-dire que tu peux avoir le plaisir vraiment où tu te laisses embarquer dans l'histoire, dans le film, et là j'ai envie de dire quel que soit le genre, quelle que soit l'époque. Et après il y a d'autres plaisirs où tu cherches justement l'aberration et tu prends du plaisir à te dire tiens qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et c'est à la limite presque, je dirais, c'est presque plus un plaisir intellectuel de voir un film complètement aberrant, parce que du coup tu te poses des questions quoi sur ce qui a pu se passer au niveau de la production, que finalement que de voir un film que tu sais déjà très bon et que t'as déjà vu et revu, que tu reverras parce que tu aimes ça quoi.
Moi je me force à voir des trucs mainstream en fait.
D'accord.
Voilà. À mon nez je me dis il faudrait quand même que je regarde des trucs un peu un peu carré, un peu voilà. J'ai un gros problème en fait. Moi je consomme énormément de films en DVD. Et mon gros problème est que je ne résiste pas par exemple à l'affiche, voilà. Alors moi si on me donne une affiche avec une fille nue, une explosion, une voiture,
il y en a beaucoup comme ça quand même.
Voilà, mais c'est un vrai problème en fait, chez moi c'est un vrai problème, voilà. Alors que si je vois une affiche avec une rue partant gris, je vais reculer. Voilà.
Mais tu vas te faire avoir sur tous les films de Rodriguez, parce que toutes les affiches de Rodriguez,
c'est ça. Le problème, c'est que je me fais tout le temps avoir. Je suis très 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 bon public et je me fais tout le temps avoir. Je choisis mes DVD en fait. Je télécharge très peu. Et en fait, je choisis les trucs en fonction des jaquettes, puisque bon, les jaquettes, ça reste quelque part une affiche. Et je choisis très souvent comme ça. Des fois, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que je vais voir. Je connais pas les gens. Je regarde très peu les noms des metteurs en scène. Alors évidemment, à force, oui, évidemment, on retient des noms. Mais voilà, je me fais encore avoir avec ces trucs-là, quoi. Voilà. Et ça, c'est mon gros problème. Donc des fois, je me dis, faut que je voie un film roumain un peu. voilà, qui va me mettre un peu down, voilà, qui va parler d'avortement, de choses très très sérieuses, et
qui passe sur la croisette par exemple.
Oui, non, mais voilà, c'est, et des fois je me dis ah oui, voilà, il faut quand même revenir dans le droit chemin, mais très vite je repars avec mes monstres et mes filles à poil.
Oui, tu vois, un film normal pour se donner un petit peu une conscience et puis pour éventuellement se tenir des conversations, puis après pour venir avec vers autre chose.
C'est un peu ça.
Peut-être une dernière question, si du sport, je peux me tromper, mais on voit peu de films d'animation dans vos programmations. Alors c'est peut-être parce que, hormis la production japonaise, c'est peut-être parce qu'il manque de films déviés en animation, et donc, à part la production japonaise, peut-être qu'il y a difficulté à trouver des copies quand c'est des.
Moi personnellement, je dirais que c'est une lacune de mon côté parce que ça m'attire pas plus que ça, quoi. C'est pas trop, ouais. donc j'y vais pas vraiment, quoi.
D'accord.
Ouais, c'est deux remarques qu'on nous fait. Il y a pas de films il y a très peu de films expérimentaux, voire quasiment jamais, et des films d'animation. En fait, c'est parce qu'on n'y connaît rien.
D'accord.
Voilà, c'est simple. Si je pense que s'il y avait quelqu'un, qui à un moment donné nous donner justement des conseils sur des films d'animation à programmer dans tel ou tel prog et que le film s'intègre, on serait totalement preneur, hein. C'est donc on viendra vous trouver.
D'accord.
Non mais oui, c'est vraiment, quoi. Voilà, c'est juste parce qu'on n'y connaît rien.
On a parlé de du ciné-concert d'ouverture. On va clôturer cette page Extrême Cinéma avec la soirée de clôture. Historiquement, vous programmez toujours des films mystères. Donc apparemment, là, vous n'en avez pas.
Non, il n'y a pas de films mystères. On a tout annoncé. On a tout annoncé. Il y a des choses. Je pense qu'il y aura quelques surprises. Hein, voilà.
Et donc le concept de ces soirées de clôture, c'est que ça finit au petit déjeuner, c'est ça?
Oui, ça finit le petit matin le dimanche, quoi, 7-8 heures par là, quoi.
Voilà. Et donc il y a beaucoup de personnes qui restent pour l'intégralité des films. C'est comment ça se passe? Vous avez d'organiser des entractes aussi pour qu'on
bien sûr, il y a les pauses toute la nuit. En fait, on les piège en passant quelque chose en général qui est très très attendu. Voilà,
ouais.
Comme je pense Bad Taste, voilà, cette année, voilà, qui est
le clou,
en fait les spectateurs, voilà, qui ne passera pas en premier, bien sûr,
bien entendu,
ce serait trop facile. et voilà, donc on en profite après pour passer plein de bandes annonces, notamment quelquefois des petits courts-métrages. Alors là, pour le coup, cette année, d'habitude il y a un petit court-métrage hygiénique, voilà, un petit film d'éducation sexuelle en principe. Voilà, on en avait trouvé un là qui était sur la syphilis, qu'on finira par passer d'ailleurs, et finalement on l'a changé pour un film sur le naturisme, sur le nudisme, voilà.
Ah, les bienfaits du naturisme.
Sur les bienfaits du
quoi, spontané.
Voilà, c'est un film des années 30 qui est absolument absolument formidable, voilà, avec des gens tout nus, donc voilà, et qui est très marrant.
Ouais, type
donc,
documentaire en fait, quoi.
Voilà, on en profite, c'est un fourre-tout, hein, la nuit, hein, c'est on en profite pour passer plein de choses et d'essayer aussi des choses, puisque là il y aura un ciné-concert de clôture.
D'accord.
Là c'est la première fois, ouais, on essaye.
Là on fait un ciné-concert de clôture, je pense qu'il aura lieu selon les estimations, hein, qui aura lieu vers 6h30 ou 7h du matin.
Vous êtes dans la salle, vous présentez les films.
Oui, on est là tout au long de la nuit.
Ah oui, on reste là tout le long. Hein. De toute façon, on est là tout le long du festival, on est toujours, on est là. Hein.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses à prévues à côté pour Substance D, est-ce qu'il y a des boissons, de la nourriture?
Oui, il y aura une. Alors ça, c'est pas que des pendant la nuit. Pas que pendant la nuit d'ailleurs. Il y aura l'année dernière, on avait mis ça en place. C'est une
petite buvette, quoi. De boire une petite bière ou quoi entre les films, quoi.
C'est ou même avant. Voire même après. Donc il y a ce truc-là. Et puis après, pendant la nuit, de toute façon, il y a du café. Il y a du thé, il y aura certainement la buvette là aussi qui sera ouverte toute la nuit.
Est-ce que le public d'Extrême Cinéma lors des soirées de clôture résiste au sommeil ou pas?
J'en sais rien.
Il y en a qui dorment.
Il y en a qui doivent piquer du nez, ouais.
Il y en a qui piquent du nez. Nous les premiers, hein.
Ben oui, vous les connaissez, vous les avez vus.
Ouais, oui, alors on est un peu fatigué, des fois.
C'est long la nuit quand même, hein.
Oui, mais il y en a qui dorment, bien sûr. Oui. Mais après, bon, on trouve toujours un moyen de les réveiller. Voilà.
Allez, une petite coupure musicale à présent, mais avant, nous allons rappeler que, amis auditeurs, vous pouvez gagner des places pour le Festival Extrême Cinéma en appelant au 05 61 580 580. Le téléphone a sonné tout à l'heure.
Ouais, ouais, alors ce serait bien de rappeler comment ils font pour retirer les places, les gagnants, quoi, parce que là, j'avais un petit doute, quoi, donc...
Bah, il faut qu'ils passent ici, donc on les renvoie vers les salariés, les personnes qui sont dans la radio, et vous pouvez passer en semaine pour récupérer les places, alors, si possible, avant mardi, hein, puisque le festival commence mardi.
Par contre, je vais rajouter une chose. Il me semble que normalement, vous devez avoir des coupons en fait que vous donnez qui correspondent à des places. Et ce coupon n'étant pas une place, il faut quand même à la Cinémathèque retirer une place en fait en présentant ce coupon.
Voilà. C'est très important. Parce que
oui, parce que
beaucoup
parce que
de gens se font avoir.
Si t'arrives au dernier moment avec le coupon que t'as retiré à la radio et que t'arrives, tu veux rentrer. S'il y a plus de place, ce sera foutu en fait parce que elles seront remises dans le circuit en fait. Donc il faut retirer une place à la Cinémathèque avec ce coupon. La place est offerte bien entendu, mais il faut quand même. C'est pour une histoire de billetterie, et voilà, de sécurité machin. Voilà, c'est pour des questions bassement matérielles.
Donc avant de passer à la programmation télé, puisque du sport nous a concocté une programmation spéciale animaux, une petite coupure musicale.
Ouais, un petit morceau qui est un hommage carrément au documentaire de Georges Franju.
Good morning, Captain. Well, good morning to you. Do you need another mule skinner? Down on your new mud. Hey, hey, hey.
Ok, c'était donc les Fendermen dans la version originale. C'est une version de Jimmy Rogers 1928-1929, Mule Skinner Blues, c'est-à-dire le blues de l'écorcheur. C'est le mec dans la chanson qui dit bonjour, est-ce que vous avez du travail. C'est plus une chanson sur le travail que sur le boulot proprement dit. Il cherche du travail, c'était pendant la Grande Dépression. Et donc, il trouvait pas de boulot, quoi, tout simplement. Mais hommage à l'excellent documentaire que vous passez, hein, Le Sang des Bêtes.
Ouais.
Qui tournait dans un abattoir dans les halles de Paris.
Ouais, exactement, un abattoir de Paris.
Les halles, vous avez pas connu, mais c'était avant qu'il y ait le trou des halles, quoi.
Exactement.
Donc, où on a même tourné un film d'ailleurs, c'est le film de Marco Ferreri, Touche pas à la femme blanche. C'était carrément intégralement tourné dans le trou des halles, mais c'était carrément génial, quoi. Alors maintenant, parlons un petit peu de films à la télé, enfin de trucs à la télé avec des bêtes dedans. Alors très souvent, bah il y en a pas beaucoup. Hein, on se rend compte que bon bah c'est pas la période de Noël. Alors donc laissez tomber, c'est pas encore le moment. Par contre, il y a un remake d'une bonne série qui passe à partir de ce soir. Donc bah comme ça pour prendre le pour pas prendre le train en marche, c'est plus intéressant sur NT1 ce soir. Le remake de la série V à partir de 20h45, les 4 premiers épisodes. Alors la série, elle est pas trop mal, on va dire, pour les gens qui connaissent l'original. Bon, ok, ils vous seront un petit peu déçus, mais ça bénéficie quand même de toute la production et de tout le pognon qu'on peut foutre dans une série actuellement, donc ça se laisse quand même bien regarder.
Ouais, moi j'ai eu peur, hein.
Le casting est relativement intéressant et tout, mais bon, quand tu connais l'original, c'est vrai que putain, t'es un peu déçu, quoi. Tu te dis, il y a moyen de faire quelque chose, mais bon, bah ils le font pas, non. Ok, ça roule, ça ronronne tranquille, et puis c'est tout, quoi. Mais bon, ça peut se regarder de toute façon. Alors sinon, ce soir, il y a également sur Canal Plus Family. C'est con, on n'a pas passé le morceau, mais bon, on le passera une autre fois. Monsieur Popper et ses pingouins de Mark Waters. Avec Jim Carrey, Carla Gugino et Angela Lansbury sur la chaîne Action. Alors ça n'a rien à voir, s'il y a des bêtes quand même, il y a des chevaux. C'est la série Deadwood qui est rediffusée sur Action donc à partir de ce soir. Donc regardez bien et tout, le roman de Pete Dexter, c'est une tuerie de toute façon, quoi. Et après, la série est vraiment bien foutue avec un casting qui troule. Bon, on va rester poli parce que les enfants écoutent. Non, il faut pas dire des choses comme ça. Il y a des gens qui nous écoutent.
Et non, mais comme non, c'est western. C'est western.
Ouais, c'est western. Donc il y a au moins des chevaux, quoi. Quoique dans Deadwood, ils servent pas à grand chose. dimanche demain sur RTL9 à 22h40, la chute du faucon noir.
Pas mal.
Bon, casting qui tient la route, hein, quand même, hein. Tom Sizemore, Sam Shepard, Eric Bana, Ewan McGregor,
William Fichtner,
Josh Hartnett. Ça calme un peu, quoi. Sinon, sur Direct 8 demain soir, également à 23h15, une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion avec Michel Serrault et Mathilde Seignier.
Ah, ça, j'ai pas
lundi.
Et on peut trouver les trucs avec des animaux, hein.
Lundi, sur Canal Plus Family, 22h05, La Planète des Singes, Les Origines, le reboot très très récent, là, de 2011 avec James Franco. Andy Serkis et Freida Pinto, entre autres.
Il est pas mal, vous l'avez vu?
Alors non, moi tu vois, je l'ai pas vu.
Ah. Moi je l'ai vu.
J'ai raté. Ouais.
Moi j'ai trouvé ça parfaitement psychotronique, mais
psychotronique. Ouais. Psychotronique.
Bah, c'est un peu comme l'île du docteur Moreau. Voilà. mais c'est hallucinant, Mais c'est pas un film intéressant, loin de là.
Donc c'est lundi sur Canal Plus Family à partir de 22h05.
C'est là qu'on voit que pour donner de l'intelligence aux singes, on balance des fumigènes.
Oui.
Avec des couleurs.
Il y avait un trou dans le budget. Sinon sur Disney Cinema Magic, celui-là je vous en ai déjà parlé et il est pas mal. C'est Les Copains de l'espace de Robert Vince, 2009. Un Disney qui est sorti directement en DTV, mais par contre l'histoire est intéressante, hein, l'histoire d'un boule terrier qui va partir en mission dans l'espace avec 5 de ses copains, 5 chiens dans l'espace, plus le boule terrier qui est le héros et tout, c'est carrément magnifique. C'est un film Disney, donc c'est demain soir à partir de 20h30. Pourquoi tu rigoles comme ça? Il me fait rigoler en plus.
Non, mais parce que je suis très fan de. Mais moi j'aime beaucoup les films avec des animaux, mais vraiment les animaux qui parlent. Et
j'aime pas trop
les CGI maintenant parce qu'on fait beaucoup d'animaux en CGI. Ouais. Et moi j'aime pas trop ça. Mais
oui,
voilà.
C'est mieux quand ce sont les vrais animaux.
On a des marionnettes à la série Sabrina avec le chat.
Oui, tout à fait. Sinon mardi sur Paris Première à 20h40, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Alors c'est le premier Audiard, c'est le premier qui réalise en fait, et bon bah il est pas trop mal, on va dire, hein. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais bon bah c'est il y a Audiard qui se lâche un petit peu, aidé en cela par Jobert, par Blier, Françoise Roset. Il y a également surtout les seconds rôles que bon, André Pousse, on le connaît quand même un petit peu, mais alors Robert Dalban, vous êtes incapable de mettre une tête dessus,
ah,
quoi.
Et pourtant
c'est un second rôle magnifique, c'est un personnage qui a eu une carrière absolument incroyable, on le voit dans pratiquement tous les films.
Oui. Hein, c'est vrai, toujours jouer les seconds couteaux,
Souvent les gangsters, enfin bon, les méchants costards et tout avec le flingue, mais bon bah c'est un excellent acteur, ouais, quand même. Et puis bon, en plus lui il a connu la période dorée du cinéma juste après-guerre. Oui. Il a tourné avec les plus grands, avec Gabin et tout, dans des super gros films, quoi, enfin français de l'époque.
Ouais, ouais.
Donc bon bah attention, c'est quand même un mec qui avait vachement de métier, quoi, en plus. plus. Mardi toujours sur Ciné Plus Classique à 20h45, le grand silence de Sergio Corbucci. Oh, ah. Là, c'est parce qu'il y a des chevaux aussi, ça, western. Mais c'est surtout parce que c'est le film un peu décalé, on va dire, au niveau des westerns italiens. À Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolf, ça m'est venu ce matin quand je regardais, je me disais, putain, c'est un film qui ressemble vachement à Drive. Parce que oui, t'as un petit peu la même ambiance, on va dire, qui est transposée comme ça, quoi. Et ça m'a vraiment fait penser ce matin, tu vois. Alors que Le Grand Silence, bon, bah, c'est quand même un film date de 68, hein, c'est le film de Sergio Corbucci. Puis qui vraiment, c'était une tâche dans le monde du western italien, parce que bon, bah, ça bougeait pas, il y avait pas tellement de poursuites et de trucs comme ça. Il y avait de très, très longs moments, très figé comme ça, quoi. Et en plus, ça se passe dans la neige. Donc,
C'est un western spaghetti crépusculaire, très sombre. Ouais.
Donc ça, c'est mardi prochain sur Ciné Plus Classique à 20h45. Sinon, sur Disney Ciné Magic, Ratatouille. Donc, voilà, pas de problème. Ouais, les petites séries, le bras. Mercredi, sur Arte à 20h50, Mammouth. Le film de Kerberne et de Lépine.
Depardieu est-il un animal?
Alors, sur Paris Première, mercredi prochain également à 20h40, Le Chien des Baskerville. Alors ça, c'est un téléfilm. Alors il y a eu énormément de versions du Chien des Baskerville, hein. Il y a pas de problème. Ça, c'est une version, c'est un téléfilm anglais qui date du début des années 80, 83 de Douglas Hickox. Donc Douglas Hickox qui a également fait des films pour le cinéma, hein, et avec Ian Richardson dans le rôle titre de Sherlock Holmes, bien sûr. Il y a également Denholm Melliot, Martin Shaw qui joue le rôle de Watson. Mais bon, c'est une excellente version, on va dire, comme les Anglais savent le faire et tout. Ils ont la patte, la technique et tout. Il y a pas de problème. Je crois même que c'est estampillé BBC, me semble-t-il. Quoi. Mais c'est vraiment pas mal pour revoir un petit peu quoi la façon dont est traité justement quoi ce bouquin et toutes les adaptations qui ont précédé quoi. De toute façon, du Chien des Baskerville. Et s'il n'y a plus ces émotions, toujours mercredi prochain, l'affaire Pélican d'Alan Pacula, elle est pas mal quand même, quoi, je veux dire.
Un petit peu de Julia Roberts.
Washington, qui est un petit peu parano, Sam Shepard.
Moi, j'ai du mal avec Pacula, bon, hein.
Voilà, quoi.
Excuse-moi.
Non, mais bon, c'est un film comme ça, tu sais, t'es fatigué de ta semaine, le dimanche soir, tu te dis, bon, ok, j'ai rien à foutre, quoi. ça se laisse regarder quand même. Sur Disney Cinémagique, mercredi prochain, 20h40, les 101 Dalmatiens, ça c'est la version de 96, donc de Silverek, gros budget, avec Glenn Close, avec Hugh Laurie aussi dedans, quoi.
Ah ouais, mais c'est la version avec Depardieu ou pas? Non, lui c'est le 2.
Non, lui il est dans le 2, oui, ça c'est le premier, hein, c'est le premier, donc hein, le reboot en chair et en os, avec également Joely Richardson, qui est pas mal, hein. Glenn Close, elle est bonne dedans, quoi, elle est excellente de toute façon, quoi, donc ça le fait. Et à 22h05, alors là c'est quand même la déception, quand même, le nouvel espion aux pattes de velours, quand on se rappelle justement de l'original, l'espion aux pattes de velours, c'est carrément, enfin bon, moi c'est ma jeunesse, on va dire, hein, mais tu vois, je veux dire, quand tu vois ce qu'ils en ont fait, pourtant, bon, il y a Peter Boyle dedans, il y a Christina Ricci, quoi. Disons, ils ont mis des acteurs, quoi, des gens qui savent jouer, quoi. Et pourtant, c'est vraiment une grosse déception, ce film. Bon, c'est néanmoins sur Disney Ciné Magic, mercredi prochain. Jeudi, sur Ciné Plus Motion, Amour Chienne. De Inaritu. Ah ben, vous avez écouté, hein. Bon, ben.
Tu t'es fait voilà, plaisir, là, hein.
Ouais, pas de problème. Ou alors, sur Ciné Plus Star, à 20h45, Monty Python. Le sens de la vie. Et le sens de la vie, de toute façon, il y a des bestioles, il y a de tout.
Ah oui, mais si je me rappelle bien, il y a une scène hallucinante avec le tigre, tu sais, quand ils sont, en fait, ils sont une espèce de jungle, ils sont là, un tigre, ils sont tous bouffés les uns après les autres, et c'est à mourir de rire.
Le sens de la vie, que beaucoup considèrent comme étant le meilleur Monty Python, enfin bon, chacun a son avis là-dessus, c'est peut-être le plus complet, on va dire, le plus abouti, mais bon, c'est pas forcément, enfin, moi, je préfère le...
C'est peut-être celui qui correspond le plus, en fait, à ce qu'il pouvait faire à la télé, parce que c'est vraiment une succession de sketchs, finalement. par rapport à d'autres films, et qui sont plus dans une continuité, cinématographique, on va dire, au niveau du rythme. Alors que là, c'est vraiment des successions de sketchs, en fait, sur ce que serait le sens de la vie.
Tout à fait. Donc ça, c'est jeudi prochain sur Ciné Plus Star à 20h45. On termine avec vendredi, sur Gulli à 20h45. Duke, l'Aristochien de Philip Spink avec John Neville et James Doohan. Sinon, sur... sais pas si je vais oser, si je peux le faire quand même. Ciné plus classique, je vous propose un classique du cinéma italien des années 60, en 68. L'amour à cheval. Le Pasquale Festo Campanile avec Catherine Spack, Jean-Louis Trintignant et Frank Wolf qu'on retrouve. Et alors là, c'est pas un western, non. C'est une histoire de nana qui découvre que son mec, il entretient d'autres nanas, donc elle décide de faire pareil. Avec Catherine Spack quand même, qui a été, rappelle-toi, on en a pas parlé la semaine dernière, mais c'était une James Bond girl.
Ah oui, c'est vrai.
Une des pas trop connues, on va dire, comme le sera probablement Bérénice la dernière.
Oui, là, elle était vraiment, c'était voilà, la potiche. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que là, c'était vraiment genre, c'est la James Bond girl, elle a deux scènes et puis on la bute direct.
C'était ça, le truc.
On passe à autre chose.
Voilà, c'était genre, c'est la figure imposée. Ah, on a ça. Ok, on torche ça vite fait. Allez, vas-y quoi. Mais
finalement, je trouve que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux dans le film.
Ah, ouais. Donc un autre film psychotronique.
Non, il est tout à fait correct, James Bond. Mais j'ai trouvé ça assez ironique, justement le fait de se débarrasser de la James Bond girl. J'ai trouvé ça assez, je trouve ça assez fin en fait quoi.
C'est le verre de scotch.
Sur la tête, voilà.
C'est une grande déception pour du sport parce que d'habitude il parle toujours d'un film qui lui tient beaucoup à cœur qui s'appelle Le Chat venu de l'espace de Norman Tokar.
Non, Le Chat de l'espace.
Le Chat de l'espace.
Ouais. Bah écoute, je veux dire, ils font des pauses de temps en temps quoi. C'est un peu normal, mais t'en fais pas, c'est un bon produit donc ça, il reviendra de toute façon. Si, Le Chat de l'espace, hein, de Norman Tokar, produit Disney, film Disney bien sûr, hein, mais très très intéressant avec Roddy McDowall dedans quoi, donc ne pas négliger. Enfin, ça reviendra. Thomas, cette émission est complètement terminée. On remercie quand même Franck et Fred d'avoir participé.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
On vous souhaite un excellent festival. De toute façon, on sera présent, il faut le dire. On sera présent à ce festival samedi prochain. On sera pas ici dans les studios de Radio Éphémère, mais on sera plutôt à la Cinémathèque.
En direct à la Cinémathèque et en public. Et nous agrémenterons nos interventions de petits jeux, comme ça le public pourra participer s'il voudra. Et nous aurons le plaisir d'accueillir parmi notre équipe Eddy du magazine 7ème Dimension, que nous avons accueilli plusieurs fois pour des émissions spéciales sur le cinéma. Pas de résumé de l'émission si les gens ont pris l'émission en cours de route, puisqu'ils pourront la retélécharger en podcast ensuite. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter donc l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites. Laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz et nous sommes en direct en alternance avec Booster FM en continu sur radio-fmr.net. Donc dans le prochain épisode, émission spéciale en direct du Festival Extrême Cinéma, ce sera la journée de clôture. D'ici là, le festival se tient à la Cinémathèque de Toulouse, rue du Thor, de mardi jusqu'à samedi. Et c'est la thématique de cette année, c'est Zoofilm.
Voilà, donc le regagnant de la place là à qui j'ai téléphoné, que j'ai eu au téléphone avant, donc c'est qu'il peut retirer sa place dès lundi aux heures potables de Radio FMR.
On va dire entre 10h et 16h.
Voilà, tout à fait.
Voilà, ce sont les heures potables. On a appris plein de mots aujourd'hui, psychotronique, heures potables, ratage magnifique. Parfaite votre vocabulaire, voilà. Donc on vous quitte, est-ce que tu t'occupes de la partie sportive ou pas?
Ouais, vu qu'il reste moins de 10 minutes, ça va être un petit peu difficile quoi. Donc on va laisser passer un petit peu de musique pour aller jusqu'à 14h. Hein.